18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche fin d'après-midi. Même si la température a beaucoup baissé, il n'empêche que nous passons un moment sous un soleil radieux. C'est une journée marathon. Quand je dis marathon, c'est au sens propre du terme, puisqu'aujourd'hui, un peu partout à travers le monde, se sont déroulés des marathons. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai mis un temps fou pour rejoindre l'autoroute dès 8h du matin. Donc, l'équipe est présente avec le coach et avec Sofiane pour des sujets ô combien importants. D'abord, allez, on va se le dire, l'élection d'un nouveau président à la Fédération algérienne de football, même s'il est élu pour la fin de l'ancien mandat, étant donné que la prochaine élection interviendra en 2025. D'autre part, on a repris aussi les compétitions africaines, que ce soit pour le CRB, l'USMA ou même d'autres clubs. La reprise également des différents championnats algériens, marocains, tunisiens aussi. Et bientôt, le tirage sort. Et une information que j'ai reçue tout à l'heure, alors elle attend confirmation, je ne peux la donner que conditionnelle. Apparemment, l'Algérie aurait renoncé directement à organiser la CAN 2025 et 2027. Et puis pour continuer dans cet aspect-là, il y a aussi cette semaine un gros dossier à Marseille. Et là, j'aimerais bien quand même aussi que l'on s'arrête un bon moment dans la mesure où ce qui s'y déroule est aussi en rapport avec la nouvelle politique du club, même si le président se défend, des langues commencent aujourd'hui à se délier et à parler des problèmes dont sont victimes, passez-moi l'expression, les petits rebeux marseillais. Et je continue toujours avec ces noms, ces grands clubs qui sont en grande difficulté, bien entendu, à commencer par l'Olympique Lyonnais. Mais en attendant, bien sûr, comme le veut la tradition, nous allons saluer l'équipe.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Avec toutes les difficultés que tu vois actuellement dans les clubs Nasser, tous les problèmes des sélections, on t'appelle, mais de manière déguisée. Salut.
Ah, n'oublie pas. Bonsoir aux auditrices, auditeurs. Oui, mais ça c'est
classique.
Banal. C'est banal, bien sûr. On n'écoute pas ces gens de... Non, on est là, t'as vu, on traite l'information. Hein, parce qu'il y a vraiment de l'information qui arrive là. Et c'est fou parce que ça prend des cheminements. Ben, on est dans la vérité, quoi. C'est ça l'histoire. Donc quand tu es dans la vérité, ben. Il faut trouver son chemin, il faut l'expliquer, le réexpliquer. On va traiter l'affaire de Marseille.
Bien sûr.
C'est aussi une des formes.
Ouais.
Tu vois un peu partout. Hein. Tu vois l'histoire de Belmadi, l'équipe nationale. On voit l'histoire de la présidence qui arrive, un nouveau président.
Ouais.
On va espérer que ce soit le bon. Et bah oui. Mais après, derrière ça, c'est toujours pareil, c'est les résultats qui priment. Hein. C'est rien d'autre que ça. Ça restera toujours ça dans le football. Dans le sport.
Le résultat.
Résultat.
Ouais. Sofiane, lui, se prépare pour à la fois ce dossier marseillais, parce que lui, Marseille forever, bien sûr, ça va de soi, et puis en même temps, toute cette aventure que le club est en train de mener, et un entraîneur qui se barre, des joueurs malgré tout qui font un super match aux Pays-Bas, souci avec la présidence, enfin bref, le feuilleton marseillais, nous qui l'alimentons quasiment chaque week-end depuis plusieurs années, et bien cette fois-ci, il nous donne plus que du blé à moudre, mais vraiment, c'est vraiment les grands épis à moudre. Ça va, Sofiane?
Ça va, Mohamed? Tu vas bien?
Approche-toi du micro.
Oui. Non, ça va, la Serge, je crois que tu vas bien.
Moi,
Serge, je l'ai tous les jours. Hein. Mais non, ça va très bien. Bah écoute, Marseille Forever, je ne sais pas, mais l'OM, oui.
Oui, ah voilà, l'OM, oui.
L'OM, oui, moi je ne suis pas marseillais. Mmh. Mais oui, l'OM, on ne va pas se mentir, hein, moi, j'assume mon partisanat, on va dire. J'ai ce club dans le sang, j'ai essayé de décrocher bien des fois. Mais voilà, après voilà, hein, moi je suis très content de ce qui s'est passé cette semaine, parce que ça a fait de l'actualité. Et je suis content aussi que l'entraîneur, moi, dans lequel je croyais pas dès le début,
Ah oui, tu l'as pas senti?
Non,
sur sa méthode,
peut-être. C'est rien à voir, c'est que moi j'ai exposé la théorie à Nasser, mais en fait, oui, le problème c'est que là, ce qui s'est passé, ça va plus loin que le cadre de l'entraîneur, mais moi c'est juste que je pense qu'il y a dans le coaching, il y a des différentes écoles, et moi j'ai beaucoup de mal avec l'école espagnole, je pense que c'est pas une école qui est exportable, et tout simplement parce que c'est des entraîneurs qui ont un niveau de joueur dans leur championnat qui est au-dessus de la moyenne, plus intelligent tactiquement. Ce qui fait que tu as des entraîneurs qui sont très en retour. Mais je pense que même Luis Enrique, je suis pas très fan, moi, personnellement. Et à Marseille, ça pouvait pas fonctionner. Quand on sait en plus qu'à Marseille, sur le banc, il faut des personnalités. C'est souvent ces joueurs, ces entraîneurs qui réussissent. Là, c'était quelqu'un d'assez terne, en plus de ça. Et on l'a vu sur le terrain. L'équipe, elle était à l'image de ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire une équipe. Ça s'est délité au fil des matchs, sans envie, sans jeu. En plus, on va reparler du match d'Amsterdam, qui pour moi aussi est un gros, gros indicateur. On voit une équipe qui s'est. C'était le jour et la nuit, des mecs qui sont sur le banc, qui là se sont retrouvés sur le terrain, on se demande pourquoi ces joueurs-là n'étaient pas sur le terrain avant. Donc non, que les supporters aient réussi, pas réussi non, mais que les supporters aient tiré la sonnette d'alarme et aient fait sauter le coach, je trouve que c'est une bonne. Je trouve moi pour moi que c'est une très bonne chose.
Oui, coach, on a parlé aussi de ce problème des jeunes à Marseille, passe-moi l'expression, qui se sont fait éclater par l'équipe dirigeante actuelle pour mettre, je dirais, beaucoup de personnes issues de la péninsule ibérique, façon de parler.
Oui, comment dire, dans toute région, dans tout pays, dans tout endroit dans le monde, les gens préconisent les siens. Alors c'est quoi les siens? C'est ceux qui sont comme eux. Les gens se reconnaissent entre eux dans des lieux communs où ils vivent ensemble. Tu peux pas venir d'Espagne, amener un staff espagnol complet et occulter complètement toute la masse des joueurs de Marseille qui sont autour de toute la région. Il faut savoir que c'est la région placard quand même, c'est quand même des millions de personnes.
C'est énorme, oui.
Voilà. Et tu as des gens qui, eux, ont fait hagal, ils ont fait vraiment le hagal à l'intérieur en étant impunis, légitimes dans tout ce qu'ils ont fait. Ça n'existe pas, ça. Tous les clubs, toutes les villes, ils ont tous un lien social qui s'appelle la paix sociale. Et derrière la paix sociale, on sait qu'aujourd'hui, les supporters prennent part importante là-dedans en disant « S'il n'y a pas ça pour nous, c'est bon. » Donc, on se doit, comme les entreprises, t'as vu, les entreprises, ils prennent les gens qui sont à côté. On le prend parce qu'on sait que la dynamique, l'ambiance sera beaucoup mieux, sera meilleure. Que si tu prends les gens de l'extérieur, ça peut créer problème. Et ben là, on y est. On est dans une des affaires qui est très courante, mais qui est compliquée parce que tu as des supporters qui veulent, on leur fait porter le chapeau en disant qu'ils tiennent le pouvoir, en pensant que le pouvoir économique n'est pas là. Mais s'il est là, le pouvoir économique, parce que MacArthur, ou je sais pas.
MacCourt,
il est là, il a des millions, il met, il impose, il met quelqu'un en place, la personne qui est en place amène ses potes. C'est ça l'histoire. Il vient, il nous pleure devant la télé. Bah, tu pleures pas, non, moi, tu pleures pas dans ces choses-là. C'est pas la rigolade, ça. T'es à l'OM quand même, t'es dans le plus grand club. Donc, il a fait sa soupe. Il a regardé sa soupe. Et t'as vu les médias, ce qu'ils ont relaté, c'est quand il a pleuré, il a dit oui, vous avez vu, ils m'ont menacé de mort. Mais si tu menaces, tu portes plainte, c'est d'une façon claire. Non, c'est précis. Voilà. Mais après, tu comme dirait Dimeco, il a mis un coup de talon, l'entraîneur, il a pris la vue, il est parti. Là, je me pose la question de dire, tiens, il y a un problème, il y a un petit problème, sûrement, qui peut s'arranger. Mais la vérité, elle n'est pas là. La vérité, c'est tout ce qui est. Ces tentacules qui remplacent sur l'OM, là, et là, on voit qui est quoi, réellement. Mais quand ça n'arrange pas les gens, eh ben, on tire de l'autre côté. C'est-à-dire que, comme on n'arrange pas, on ne veut pas arranger les joueurs, eh ben, on dit, vous avez vu, il y a des menaces de mort. Et de l'autre côté, tu vois l'OM qui fait un match de fou.
C'est ça.
Je dis, qui était impressionnant. Moi, je dis, il est là le déclic de l'OM. Il est là parce que on a vraiment vu qu'en fin de compte, il y a des vrais joueurs, un vrai recrutement qui était fait, et en fin de compte, l'entraîneur n'en voulait pas. Tu vois pas les deux Marocains, t'as pas vu ce qu'ils ont fait? Tu joues à Amsterdam.
Ouais.
Tu joues pas au Havre. T'es à l'Ajax d'Amsterdam. Et tu fais un résultat comme ça. En plus, t'es mené. Alors, c'est magnifique. Donc, ça veut dire que, abracadabra, là, parce qu'il l'appelle comme ça.
Oui.
Il est venu, il connaît les joueurs, il les a mis en place tranquille. Et on a vu une équipe de foot, une vraie équipe. Ah, je dis, putain, ça fait plaisir, moi. Après, maintenant, c'est comment l'autre se justifie, là, et comment il est en train de nous expliquer les. Mais est-ce qu'il paraît, il y a des affaires en dessous. Mais bon, moi, je doute qu'ils vont être dites, parce que si ça prend de l'ampleur et si ça peut engager. Les responsabilités civiles des uns et des autres, je crois pas que la police va accepter que ces mecs-là portent le P. C'est aussi ça. Hein.
L'histoire, Nasser, dans ce que tu dis, c'est que pourquoi est-ce que ça explose maintenant ? C'est surtout, je sais pas si tu as vu, tu as le match contre Toulouse, ou après le match, je pense que tu as vu le match, c'était catastrophique.
Ouais, j'ai pas vu.
Et tu vois les supporters à la fin qui disent, en gros, ça m'a fait rire, ils disent le football, il faut marquer des buts, il faut pas tourner autour. J'ai trouvé ça marrant parce que c'est exactement ce qu'on voit, tu vois.
Ouais.
Enfin, Longoria, il arrive, et en fait, il fait deux saisons où à chaque fois, il change tout.
Il change business, tout. Parce qu'il est dans le business.
Voilà, il y a des transferts qui se font, etc.
Et Mourad Boujna explique bien comment on peut trafiquer avec des comptes offshore et tout.
L'histoire, c'est qu'en fait, c'est Tracfin qui peut suivre des transactions financières un peu douteuses. Tracfin, c'est Bercy. Ouais. Mais bon, même ça, tu peux maintenant. Bon, bref, c'est des mécanismes assez compliqués, mais tu peux concrètement détourner de l'argent de manière légale sans que ça se voit. Quoi. C'est ça le truc. Bon, ça, on ne sait pas, mais. L'histoire, c'est quoi? C'est que il y a ce match.
Tous les liens sont là. Tout est lié au transfert ou au rétrocommission. Tout est là. Hein. C'est une sorte que.
Oui, mais Nasser, ce que je veux dire par là, c'est que si le président, il fait son business, mais que l'équipe elle tourne.
Non, mais il n'y a pas de si là. Elle tourne pas.
L'équipe. Non, mais elle tourne pas. C'est ce que je suis en train de te dire, Nasser.
Voilà, ben c'est ça.
C'est ça. L'histoire, c'est que ce qui déclenche tout ça, c'est le match du Panathinaikos. Qui déclenche tout ça, c'est que t'es pas en Ligue des Champions et que derrière, t'as un championnat qui est très compliqué.
Et t'es mort.
Bien sûr.
Et t'es mort.
L'histoire, elle est là.
Et t'es mort et tu n'existes plus. Et c'est comme dans tous les grands clubs. Tant que ça va, tu amènes du bonheur, les Français applaudissent, les millions, les audimats sont à la pointe, on touche pas. Mais dès que tu plonges un peu, dès que l'équipe va, là, t'as tout le monde qui se lève. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ce club? C'est quoi ces joueurs? C'est quoi ce président? C'est quoi les joueurs? C'est comme ça, c'est le jeu.
C'est le jeu. Donc finalement, c'est pas les joueurs, c'est l'erreur de casting avec le
non,
coach
c'est président. Le président.
Oui. Parce que les joueurs, ils ont sorti un match du rêve.
Ben, on a appris que Tudor voulait rester. Oui. Ivir Sanchez voulait rester. Ouais. Ivir Guendouzi voulait rester. Ivir Payet voulait rester. C'est quand même un peu mieux que ce que j'ai vu moi depuis un bout de temps.
Memba, il voulait le mettre Tricard parce qu'il a parlé. Ouais. Finalement, il a pas réussi à le vendre. Tu peux rajouter Guendouzi qui part.
Ouais, je l'ai dit.
Tu l'as dit. Tu peux rajouter comment il s'appelle Unai qui jusqu'à la fin du mercato.
Oui, exact.
Il voulait lui trouver une porte de sortie alors qu'il est arrivé il y a 6 mois.
Ouais.
C'est incroyable quand même.
Oh, il y a Anguille Souroche, mais si l'anguille elle est trop énorme, t'en auras pas parlé. Ouais. C'est clair.
Non, t'as Rachid Zeroual qui s'est exprimé, qui a dit que lui, il avait des choses très graves.
Très graves. Mais les gens qui disent j'ai des choses, je crois pas. Ou tu les dis, ou tu dis rien. Ouais. Il n'y a pas d'histoire, je vais vous dire, vous allez voir, non, ça n'existe pas ça. Ou tu dis les choses clairement, et comme ça les gens ils se positionnent.
Ça dépend, la serre. Ça dépend, parce que le problème c'est que dans ce genre d'histoire. Tu sais très bien que si tu fais une accusation, derrière, tu peux te retrouver devant la justice parce que tu peux accuser en diffamation, sachant parce qu'il faut que tu prouves ta position.
C'est extrêmement
compliqué si t'as des éléments.
Oh, mais ils sont coquins, les cocos là. S'ils veulent les faire passer, ils le font passer par d'autres personnes. Hein. Il y a d'autres personnes qui vont le dire à sa place. Hein. Si tu veux faire passer l'info, tu le fais passer. Hein. Tu peux, pas obligatoirement par Rachid Zeroual, tu peux le faire passer par n'importe quelle personne là ou par un journaliste.
Il y a des trucs qui sont sortis. Après, faut voir l'authentification. Il y a des trucs louches, tu vois, qui sont sortis. À voir.
Faut attendre. Ouais.
Voilà. Après.
Faut attendre ça.
C'est tout. Après, Longoria, moi, je pense qu'il est dans son rôle. Là, moi, je pense que depuis. Depuis, de toute façon, depuis des années, mais depuis là, depuis 3 jours en particulier, il est un peu dans une.
Ouais.
Pour être gentil, on va dire qu'il est dans la communication, mais en vrai, il y a beaucoup.
Il a parlé beaucoup
de cinéma là-dedans.
Oui, que
c'est beaucoup de mise en scène.
Que la stabilité, c'est au bout de la 3e année, et que là, pendant 2 ans, c'est vrai, ces changements incessants ont fait que Marseille n'était pas stable. L'année prochaine.
Il nous a fait le truc à l'algérienne.
Oui.
Je démissionne. Et j'attends que ça, moi. Je démissionne.
Ah, mais comme t'as dit Nasser, c'est vrai que on n'a pas assez mis l'accent, je trouve, sur l'impact qu'a eu ce match à Amsterdam dans la décision de Longoria. Parce qu'en fait, l'équipe qui fait des résultats, lui qui prend la parole le lendemain, c'est allumé parce qu'il sent qu'il perd le contrôle de la situation.
C'est complètement ça. Entièrement d'accord.
L'équipe, elle tourne avec un entraîneur qu'il n'a pas choisi, avec les joueurs que le mec, tu vois.
C'est ça. Il le sait pertinemment. Et c'est voulu, entretenu et. Après, maintenant, je sais pas si les gens vont aller au bout, mais après, moi, dans une affaire comme ça, si les choses devaient être dites, elles devaient être dites. Hein, et qu'on aille au bout. Hein.
Oui.
Maintenant, on va voir ce qui se passe ce soir. C'est très, 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 très important ce qui va se passer.
Non, mais j'ai écouté Corbis. Il a dit, attends, il y a quand même un délai de 48 heures en termes de récup entre Paris qui a joué mardi.
Jeudi
pour Marseille. Ouais. Donc,
c'est un truc de fou, ça.
Ouais.
Un truc de fou. Ouais. Mais, t'as vu le match qu'ils ont fait à Amsterdam, hein,
ouais.
Physiquement. Ouais. S'ils n'appellent pas Doliprane et leurs potes.
Non, bah parce que les Hollandais, bah, ça court, hein, purée.
Ça court. Il n'y a pas que oui. Le terrain.
Oui.
J'ai jamais vu un terrain aussi grand, ouais. à part le Nou Camp.
En fait, c'est ça, c'est un truc, c'est très français. Tu regardes en règle générale, les équipes qui jouent le jeudi, le dimanche, elles ne performent pas.
Ouais.
Bah oui.
T'as Toulouse qui a perdu déjà à Lens, qui a joué
ouais.
le jeudi.
Ouais.
Et ça, c'est pour les télés. On fait le match jeudi pour les télés.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, les Italiens ont trouvé la parade. Les Italiens jouent les matchs, les équipes qui jouent le jeudi jouent le lundi.
Ah, c'est mieux.
Ah, c'est mieux, oui.
Ouais. Ce qui fait un jour de récup en plus.
Ouais. Voilà, ouais. Bah, ouais, en ouais, ça équilibre.
Tu vois.
Parce que PSG depuis mardi, il a vraiment mais attends.
Ouais, bah oui, c'est ça. Très bien, oui. On va marquer première pause.
Ils attendent PSG depuis mardi,
oui, bien sûr.
Ouais. Ils sont en plein bourre. Putain.
En plus, eux, ils ont battu le Borussia Dortmund 2-0, donc ils sont même dans une configuration de dynamique européenne. On marque une première pause, on se retrouve dans un instant.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
On a abordé un premier sujet. Vous êtes prêt pour le deuxième Very Hot, très chaud, n'est-ce pas, coach? Après.
Mais c'est un plaisir d'avoir notre.
Ah, mais bien sûr, mais attends.
Je sais pas que tu voulais le
ouais.
Mais quand je l'avais comme ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas bougé. On dirait que c'était hier.
En fait.
Ah, la belle époque, hein.
Ouais. Et voilà. Vous l'avez entendu parce que je peux pas. Nous, on l'a connu Momo Algérien Foot. Alors, je ne sais même pas si on peut l'appeler autrement. Parce
ouais, c'est Algérien Foot, hein, toujours.
Voilà, on l'a connu comme ça. Tout à l'heure, je lui poserai la question de savoir pourquoi il est venu à l'écriture, parce qu'il a écrit sur l'équipe nationale, notamment sur comment s'appelle, Riyad Mahrez, avec cette phrase en anglais, « Don't give up », tu vois, ouais. « N'abandonne pas ».«
Never give up ».
Ouais, et puis « Never », oui, calme, « N'abandonne jamais », surtout, donc « Never », c'est « Jamais ». Et puis, là... quand j'ai vu le livre, j'ai vu un hommage à l'immigration de première génération. Exact. Je me suis dit, waouh, il passe du sport carrément à l'aspect purement humain
psychologique, ouais.
et psychologique de l'immigration. De tout ça, il va nous en parler tout à l'heure.
Ouais.
Mais comme tu es toujours très présent dans le monde du sport...
On ne lâche pas, c'est une passion.
C'est une passion. Effectivement, je disais à coach, on a passé un temps fou avec des changements à l'appel au niveau de la Fédération Algérienne de Football. Et là, finalement, on a un président. Attention, quand je dis un président, étant donné qu'il était candidat unique, je crois que c'est 75 voix pour, 6 contre, quelque chose comme ça. Bon, c'est Walid Sadi, qui a été élu président. J'ai quand même écouté sa conférence. Hein, je l'ai suivi parce que c'était des questions courtes, très brèves, et puis elles étaient toutes en rapport avec son mandat. Il a dit, attendez, je n'ai pas été élu pour un mandat, mais pour finir un mandat. Donc ça, c'est la première chose que j'avais écoutée, et toutes les réponses étaient en arabe. Donc ça m'a permis vraiment de l'écouter à fond. Et à un moment donné, on n'arrêtait pas de lui casser la tête avec Jamel Belmadi. Il a dit, attendez, carrément, en gros... en français, foutez-lui la paix, quoi. Tranquille. C'était la phrase qu'il a sortie. Et puis apparemment, ils ont discuté ensemble pour fixer un objectif à minima de demi-finale de Cannes en Côte d'Ivoire. Sachant que quand il va jouer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'Afrique n'est plus l'Afrique d'avant. Donc voilà, je vais avoir votre opinion sur cette élection. Momo, je te fais replonger un peu dans le
d'accord. foot. D'accord. Est-ce que tu m'autorises, tu me donnes carte blanche? Kia, je vais commencer par, on va dire 5%. Il y a toujours une phase, si tu dis « Hachel et Mestehel ». Il y a toujours 5%, on va leur mettre le bénéfice du doute. Il y a quand même des gens honnêtes, des éducateurs et tout ça. Donc on va dire 5%. Le football algérien, c'est quoi aujourd'hui en 2023? C'est 95% de crimes organisés, banditisme. C'est plus du foot. Il n'y a plus de foot en Algérie. En Algérie, il y a une équipe nationale de 11 gens qui se sont formés tout seuls dans les rues d'Algérie et de fils de gens qui sont venus travailler ici, qui ont eu des enfants, que d'autres ont formés. C'est ça, l'Algérie, c'est une vitrine. Il y a 80%, 95% de mafieux. Ce qu'on assiste depuis 2017, c'est deux clans, une guerre de tranchées, une guerre de 14-18 entre la mafia russe et la mafia albanaise. Et le but du gâteau, c'est l'argent public. Et l'argent public de l'Algérie, c'est l'argent du contribuable. C'est le tien, c'est le mien, c'est l'argent des Algériens. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Le gouvernement, il est pris entre deux feux parce que le foot, nous on est un pays de football, le foot est quasiment une religion, c'est la paix sociale. Merci. Quand il y a le match de foot, ça se passe bien, tout le monde est content. Tu sais comment on appelle ça à l'INSEE, le taux d'humeur des ménages.
Oui, oui.
Même moi, quand il y a l'équipe nationale qui joue, ben, toute la journée je suis content. Quand ça gagne l'autre fois contre le Sénégal, j'ai bien dormi, tu vois, donc même sur moi ça marche. Donc le gouvernement, il est pris en otage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, c'est pas grave. Ce budget-là, c'est un budget paix sociale. Mais il alterne. Un coup, il le donne aux voleurs de gauche. Il attend 4 ans, il donne aux voleurs de droite. Il leur donne tout. Tout le monde est conditionné pour voler de l'argent public. C'est ça le foot algérien. Les clubs de Ligue 2, de régional, Féminin, les clubs de même le Fennec, ils volent. Le Fennec, là, le renard, l'animal, il vole. Là, c'est quoi ? On a assisté à quoi ? Pathétique. Ça fait depuis 2017, on assiste à une guerre de tranchées. Chacun, c'est à ses journalistes. Et je les mets dans le même sac. Hein. Les etchistes, les raouraouistes, les trucs, les FZFistes, les machins, je les mets dans le même sac. Chacun, c'est youtubeur qu'il paye. Chacun a ses pages Facebook là, immondes, de fake news, de ils vendent de la drogue, de il va avoir des prostituées, de il fait ci, il fait ça. Et le but du gâteau, c'est d'être calife à la place du calife. Et celui qui n'a pas la place, il rentre dans l'opposition, il dit l'Algérie a brûlé, mais voilà, j'ai pas eu la place, tout doit cramer. Ça envoie des lettres à la FIFA pour nous balancer, pour dire oh, le ministre, il a fait une ingérence, faut les suspendre. Il y a un mec de la FIFA, une fois, il a montré, je l'ai vu de mes yeux. Un dossier comme ça, envoyé par des journalistes algériens, où ils disaient « J'ai pas compris l'exercice 3, là, il a pas respecté l'article 8 !» Tu vois, c'est des crapules finies. Je te dis, même Don Corleone, le patron de la mafia, Cosa Nostra, tu lui dis la fédération, il dit « Non, c'est trop gros pour moi, bon, non, je peux pas. Moi, les détournements, tout ça, oui. La Chicago, oui, mais Las Vegas, oui, mais là, non, pas la FAF, c'est trop. » Tu vois ce que je veux dire ? Et là, ils seront pas tranquilles. Là, c'est ça, Sadi, il a pris le pouvoir. Sachant que Sadi s'autoproclame cheval de Troie de quelqu'un d'autre, d'un ancien président. Il est content. Il est content, il se dit oui, je suis à la vitre. Mais les autres là, qui disaient oui, il faut soutenir la fédération, maintenant ils vont entrer dans l'opposition. Maintenant ils vont commencer à dire oui, Sadi, t'as fait ça, et Inch'Allah, on se fait éliminer, et tout ça. Et les youtubeurs qui disaient oui, c'est anticonstitutionnel, l'autre est Zachi, il a mal été élu, maintenant ils disent. Le gouvernement a choisi en son âme et conscience Walid Sadi parce que c'est l'homme de la situation. Ah bon ? Ben pourquoi tu vas balancer à FIFA alors quand c'est les autres qui étaient choisis ? C'est là et la merde et je sais pas comment on va s'en sortir. On s'en sortira pas. Ce qu'il faudrait faire, c'est le FBI et la CIA du bled, ils arrêtent tout le monde, même le mec. Regarde, il y a une ville comme Biskra. Je vais donner un exemple. Oui. Parce que moi, on me dit, oh, t'as pas d'exemple. Je vais donner un exemple. Biskra est une ville où le foot féminin, c'est pas Biskra n'est pas une ville danoise ou norvégienne ou germanique où le football féminin est une institution. Tu sais à combien d'équipes de foot féminin Biskra? Il y en a 3 ou 4. Pourquoi? Parce qu'il y avait Mesh'al Ziben Biskra qui était une équipe football féminin qui faisait du bon travail et tout. Et le mec, il veut pas être coach, il veut être dirigeant parce que dirigeant, t'as le budget de la DHJS. Ils font d'une équipe. Association sportive Biskra et l'autre, football club de Biskra, l'autre jeunesse de Biskra. Et l'autre, au lieu d'avoir un budget de 10 000 euros, par exemple, pour pouvoir jouer le championnat, faire les déplacements, tu te retrouves avec trois équipes de branquignoles qui touchent 2 000, 2 000, 2 000, et l'autre, il est content parce qu'il s'achète une petite mobilette avec l'argent. Imagine ça, le tout, les clubs de Ligue 2, regarde, ils ont tué le football algérien. Ouais. Ils ont tué le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger, normalement, il devrait avoir son jet. Il devrait avoir son Bernabeu. Au lieu d'aller à Barcelone faire des photos, il devrait aller au Mouloudia d'Alger et dire, regardez, est-ce que tu as vu en Égypte l'Ahli? Eh ben nous, on a dépensé au moins 10 Al Ahly et le club, il joue à Omar Hammadi, là, dans un terrain de Saint-Eugène de 1912.
Oui.
Et on dit, ouais, ils ont tué le Mouloudia, ils ont tué l'USMA, ils ont tué le CRB. T'as vu le CRB? Le recrutement du CRB. Ils ont tué la JSK. L'autre, là, Mellel, il est venu, là, il a mangé du couscous pendant 2 ans. Il a mangé plein de couscous, on l'avait mangé du couscous partout. Il a fait quoi, Mellel? Il est parti avec la JSK part de zéro. Ils ont tué l'équipe nationale. T'as vu, leur staff, ils veulent des emplois virtuels. Même les consultants anti-corruption à la télé, c'est des corrompus. Le mec, il est consultant, il parle de facette, lui-même, il a un emploi virtuel. Ils veulent des emplois fictifs. Moi, j'ai connu un mec, ils l'ont nommé coach des U18. Ils lui ont dit, pourquoi tu n'es pas venu travailler? Il dit, moi, je suis pas là pour venir travailler. Les mecs, ils se prennent pour des anciens moudjahidines. Ouais, moi, j'ai donné à l'Algérie. Tu as donné quoi? Le frère à Nasser, il a donné à l'Algérie aussi. Nasser, il a donné à l'Algérie. T'étais payé. Maintenant, ta carrière, elle est finie. T'étais sportif. T'étais pas dans le Jbel. Oui. T'étais pas qu'une mitraillette avec le napalm de l'armée française qui était au-dessus. C'est quoi ça? Ouais, j'ai donné à l'Algérie. Quand tu touchais. Par exemple, un mec comme Chaouchi, je te garantis, Chaouchi, dans 10 ans, tu vas le voir à LHDF TV. Ouais, j'étais Omdurman, regardez, maintenant je suis gérien. Bah, fallait pas te donner tout ton argent aux meufs, mon ami. Fallait pas acheter des Ferrari. Tu vois, gérez votre pognon. Vous avez joué au foot, vous avez été dans les grands hôtels. Regarde là, l'équipe nationale, ils ont été au Sénégal, un palace, un avion privé. C'est quoi ton. C'est pas Moudjahidine, ça, c'est vrai, tu fais ton taf, t'es dans de bonnes conditions. Mais maintenant. Va travailler. T'as 30 ans, nous, on travaille. On se lève le matin, on va travailler. C'est quoi ça? L'Algérie n'a rien fait pour moi, mais si elle a fait. T'as fait de la gymnastique, de l'athlétisme, tout ça. Maintenant, ça y est, au revoir. C'est bon. On va pas te mettre ad vie. Il y en a, ils s'inventent des passés. Il y en a, ils sont présidents de l'Association des Anciens Internationaux. Ils ont une sélection en U20. Ouais. C'est la maison qui rend fou.
En fait, ce discours, je l'ai entendu de beaucoup de journalistes algériens qui m'ont dit que de toute façon.
C'est quoi un journaliste algérien en 2023, Mohamed? C'est un mec qui est payé par l'un ou l'autre. Oui. Il vient à la télé. Ouais, lui, il est pas bien. Ouais. L'autre, il est pas bien. Mais par contre, quand l'autre, son ami, il est au pouvoir, il est bien. Et l'autre qui disait tout est bien, il vient, c'est pas bien. Regarde là. Bahloul. Ahmad Bahloul de la Ligue de l'Est. T'es de Tarf là. T'es d'accord avec moi que c'était l'ennemi juré du clan qui était contre Zachi et Ammar Behloul était dans le truc de Zachi. Là, je vois Ammar Behloul et Medouar qui dit je fais allégeance à Walid Saadi. Attends, on est où là? Comment tu peux faire allégeance si toi insulté pendant. Il l'appelait Moulkoustim la Azrag sur YouTube. Dès que t'entendais Moulkoustim la Azrag, ils ont dit que Hakim Meden, ils vendaient de la coke en Espagne. Ouais. Et maintenant, les mecs, ils viennent au bureau fédéral, ils se font la bise et tout. Je t'ai dit, moi, je ne crois plus en rien. On a une sélection. Il y a peut-être. Je connais des gens qui travaillent bien, comme Omar Merabet, là, le président d'Arbo. Il y en a qui travaillent bien. Il y en a qui travaillent bien. Mais t'en as, c'est. Où il n'y en a pas un qui est bénévole. Regarde Abramovic. Il a mis son argent dans le football. Nous, ils deviennent riches grâce au football. Le mec, il vient. 2 ans après, tu le vois, il roule en golf. Il a des hôtels, il a tout. Et regarde, personne, même celui qui te dit, mais non, c'est une équipe d'amateurs, moi, qu'est-ce que tu veux que je vole? Mais non, t'as des marchés publics, comme par hasard, t'es des entrepreneurs. Ouais. Il va voir le maire, il fait la bise, il obtient le goudronnage de la route, machin. C'est foutu. Je t'ai dit, demain, tu me mets le pape François président de la FAF, j'ai un doute. Je demande une enquête. Ouais. Comment expliques-tu qu'un club comme le Mouloudia, il n'y a pas eu un audit qui a été fait depuis 1962, je crois? Tu fais un audit au Mouloudia, mais comme il a dit, Coluche, tu contrôles la cocaïne, il y a tout le top 50 qui saute. Tu fais un audit. Regarde, l'USMA d'Alger, c'est pareil. Serpor, là, c'est quoi? Mouloudia Doran. T'as vu, ils ont tué le Mouloudia Doran. Mouloudia Doran, une équipe qui a été fondée par des imams, qui était Zahma. Une équipe, le Mouloudia Club Orané El Hamri. Mais c'est devenu quoi le Mouloudia Doran? C'est devenu des patrons de cabaret qui s'embrouillent, à qui volera plus, ou qui ira avec des meufs. L'autre, il se fait arrêter dans un contrôle d'identité avec des mineurs. L'autre, il fait ça. L'autre, sa femme, elle se barre en beauté. Mais c'est quoi ça, le Mouloudia Doran? Vous êtes sérieux, les gars? Ouais. Ils sont où, Louis Dade de Tlemcen, il est où? L'OMR, il est où? Hein?
L'OMR, c'est depuis la mort
de. L'entente de Atif, là, c'est rare, là. C'est bien, il met bien là, le Schwarzkopf, là, sur ses cheveux, là. Mais après, à part ça. Moi, je te dis, je suis désabusé, je n'y crois plus. Ça veut dire maintenant, je suis né avec l'équipe nationale, je suis fan. Quand il y a une date FIFA, je regarde le match, je m'assois, je dis rien. T'as pas remarqué, je commente plus, même sur Facebook, je commente plus. Ça,
on l'a remarqué, ouais.
Il y a des mecs qui, je commente plus, je m'aime plus. Tu viens, tu dis un truc. Il y a un clan qui vient sur Twitter, il te fait plein d'insultes sur toi, tu retrouves ton Twitter, il est plein d'insultes, plein machin. Et moi, ce qui me fait rire, les gens qui sont venus m'insulter, que je touchais de l'argent, parce que moi, je donne mon avis quand ça me plaît pas. Lui, par exemple, ça me plaît pas, je dis mon avis. Elle, ça me plaît pas, je dis mon avis. Non. Eux, il y a l'autre du clan d'en face, il te fait combien ils t'ont donné. Donc ça veut dire que toi tu touches, puisque tu me dis combien ils t'ont donné. Arrêtez les gars. Là, tu crois que ça va arranger quoi? Là, maintenant, il y a les autres, là, les gens qui ont perdu le poste, qui vont venir dire « Ouais, c'est pas légal, je vais écrire à FIFA, ma maîtresse, il copie, machin. » Ils vont venir à la télé dire « Arrêtez, moi, je te dis. Hein. » Vive la loi des Bahamas. Oui. T'as vu, maintenant, on ramène des Karim Chang, oui. On ramène des Jean-Patrick Mokhtar, oui. Parce que à force, le métissage et tout ça, les gens se sont mariés. Oui. Maintenant, c'est la 10e génération de binationaux. Oui. Ça a commencé avec Jadawi, maintenant, c'est devenu Abderrahani Jadawi. Maintenant, on a des Anthony Mandrea, tout ça.
Donc, bande de Kharkov.
Voilà. Oui, oui. Bande de Kharkov, tout ça. Et c'est bien, heureusement qu'ils sont là. Ouais. Heureusement. Continuer de faire des enfants, les immigrés. Et en Algérie, il y a 2, 3, 4, 5 joueurs qui se forment tout seuls dans les rues, comme Slimani s'est formé tout seul, auto-formation. C'est comme la combustion spontanée. Et on aura des équipes nationales, parce que comme on est un pays de ballon, et nos jeunes, ils ont du ballon. Regarde Benzema, les Français, on leur a donné quand même 2 ballons d'or sur 5.
Ouais. Hein.
Donc nous, on est un peuple de ballon. Ça nous fait des Coupes du Monde. Des cannes à la canne, on s'amuse, là. Smaïl Bouha, Abdallah, il invite des chanteurs de rap qui connaissent rien. Il vient lui dire ouais, yo, Soufa, la RDC, machin. Et on regarde la canne. Oh, là, voilà. C'est fini. On ferme. Fermez le réado. Ça sert à rien de débat. Venons, on parle des crêpes sur Z ou on fait un débat sur la quadrature du cercle ou l'apologie de la frite et de la merguez dans l'histoire de l'humanité. Au class. Voilà.
Très bien, Momo. Super. Moi, je suis très content de ce qu'on appelle ce coup de gueule. Au moins, il met les choses à leur place. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette première heure d'émission.
Fou de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Allez, retour sur Foot de Sport. Troisième et dernière partie de cette première heure. Oh, combien chargée. Hein. On a abordé un petit peu le volet de cette élection à la Fédération algérienne de football. Maintenant, on a abordé aussi le volet de Marseille avec tous ces problèmes. Il y a quand même maintenant autre chose, mon cher coach. C'est une info qui a circulé tout à l'heure. Alors, il faut peut-être la prendre avec des pincettes. On nous dit que l'Algérie aurait renoncé à présenter carrément...
Ah non, c'est officiel, hein, c'est Walid Saadi, première décision, c'est officiel, c'est une vraie info.
Pour la CAN...
La CAN 2025 et 2027.
Et 2027, les deux alors.
Les deux.
D'accord, donc...
Mais bon, c'est des malins, comme ça, ils jettent la patate chaude. Oui. Comme ça, ils se défaussent, tu vois, genre non, on ne l'organise pas. Ça se voyait que selon les dernières infos, on ne l'aurait pas eu. Donc ça leur permet d'enlever un dossier compliqué comme ça. Là, on sent la patte du patron.
Oui, c'est bien.
On sent Cyrano de Bergerac.
Parce que 2025 et 2027, c'est ce qu'on s'est dit, lorsqu'on a vu ensemble les calendriers de ces futurs CAN, ça fait beaucoup de matchs, en sachant que la 2023 se joue en 2024. Ça veut dire qu'une année après, on enchaîne avec la 2025. Mais entre-temps, vous avez les matchs éliminatoires de Coupe du Monde, vous avez la Coupe du Monde. Est-ce que, à votre avis, est-ce que les clubs vont accepter toutes ces absences de joueurs, je parle de joueurs internationaux, notamment les plus renéchards européens par rapport à l'Afrique? Mais c'est ce qui va se passer.
Mais je crois que la CAN 2025, on parle d'une annulation.
Par rapport
il y a une rumeur qui dit qu'ils vont l'annuler purement et simplement.
Mais franchement, ce serait une bonne solution. Ce serait une très bonne même décision. Parce que sinon, Momo, ça fait trop d'enchaînement entre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 2025, donc on l'a dit, ça fait trop court. Au moins, passer donc celle de 2023, on va la jouer là en janvier 2024. Et ça veut dire qu'il va falloir passer à la CAN 2027.
Si on fait ça, Mohamed, ça valide la racialisation du football. Le football a été créé par les Européens pour les Européens.
Oui.
Ça veut dire l'Afrique, ça a toujours été du second choix.
Ouais.
Comme on dit en Algérie, du good, de la contrefaçon. Les Sud-Américains, c'est leurs cousins. Ils ont immigré en Amérique du Sud, c'est leurs cousins. Les Australiens et les Néo-Zélandais, c'est leurs cousins. Oui. Mais nous, les Africains, nous ne respectent pas. Pourquoi on annule toujours nous ? Pourquoi la Copa América a toujours lieu? Pourquoi l'Euro a toujours lieu?
Et personne ne dit rien. Oui, et quand la Copa América, tout le monde se tait.
Quand les Sud-Américains vont faire des matchs dans la cordillère des Andes au mois d'août à moins 5, là, avec de l'altitude et tout, personne ne dit rien. Nous, on prend 2 heures de vol pour aller jouer à Nelson Mandela, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Parce que eux, c'est leur cousin, Chimurija de l'Europe, tu vois. Ouais. Tu sens un Argentin, c'est un Espagnol, un Italien, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est mélangeux.
Un Uruguayen, c'est un Allemand qui a collaboré avec les nazis. Tu sens un Australien, c'est un Anglais.
Oui.
Mais nous, c'est les indigènes, c'est Buana, Banania, tu vois. Ou bien, tu vois, nous, on est bien pour construire le stade,
les routes,
nettoyer les poubelles, mais pas pour organiser les compétitions. Et tu regardes, depuis, il n'y a que Joao à Avalanche qui avait ouvert un peu pour le business, mais tu regardes Stanley Rousse, il était vraiment, pour lui, l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'était super. Oui. Quoi.
C'était le
président de la FIFA avant Avalanche.
Avant Avalanche, oui.
Ah, lui, il voulait absolument que l'Afrique du Sud joue avec une équipe blanche. Il a milité pour eux, mais de ouf. Heureusement, nous, on a foutu la merde, les Algériens, à l'ONU, on a empêché ça.
Ouais, mais quelque part aussi, l'Algérie, dans tous les combats, elle est présente. Hein.
Ah bah oui. C'est non, mais tu sais que le boycott des Jeux Olympiques de Montréal, c'est nous. Hein. C'est un ministre des Sports qui s'appelait Abdelaziz Bouteflika, qui était à l'ONU et qui a fait du lobbying de malade parce que les Européens ne voulaient pas boycotter les Sudaf. Hein. Ils continuaient de jouer au rugby, ils continuaient. Le boycott de l'Afrique du Sud, c'est le premier boycott de l'Afrique. Et les mecs, il y a même des équipes qui sont arrivées à Montréal, ils sont repartis. Ils n'ont pas joué les JO. On les a laissés.
Bah, en tout cas, tu es vraiment félicité sur les réseaux, Momo, parce que tu as ouvert ton cœur. Et puis,
je les remercie, je les salue bien.
Parce que, tiens, entre autres, Farid des Ligue 1, Farid le malheureux, parce que c'est Farid le Lyonnais. Et oui, bah, mon cher Farid, Lyon, ça va pas du tout. Marseille, ça va, mis à part dans les coulisses, mais au niveau foot, ça va. Et tu as aussi et donc d'autres personnes qui sont intervenues par rapport justement à toute cette organisation africaine. Je pense aussi que l'histoire du Covid a fait que on est arrivé à un point où il fallait carrément annuler une. On l'a toujours dit ici, il fallait annuler une compétition. On peut pas continuer comme ça à faire des cannes en hiver. On est complètement désorganisé. On a accepté une fois, mais maintenant à la suite cannes en janvier, ça fait beaucoup. Alors, coach.
Oh non, mais c'est des compétitions, tout ça. C'est toujours.
Ouais, mais d'accord.
Toujours, mais c'est des compétitions africaines. On sait que les gens ont besoin de jouer parce qu'ils n'ont pas de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, je sais plus quoi encore, leur Ligue des Champions comme ils ont organisé, parce que le football est organisé autour de l'Occident, autour des pays européens.
Et il est comme je préfère entendre ce mot-là.
Non, maintenant, coach, petite nuance. Ouais. Maintenant, le foot, il est dans le golf. Hein. Ouais, il s'est déplacé, le siège de la FIFA.
J'arrivais pour
Zurich, la maison, elle est vide. Il n'y a personne à Zurich. Il y a que des Algériens qui faisaient des manifs là, devant le truc. devant le coin en cierge. Tout, la FIFA, ils sont à Doha. Ouais.
C'est ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'ai de l'Asie aussi qui participe et qui commence à devenir très très important, puisque c'est l'argent qui règne. Ouais. Ben, on va attendre que l'Arabie Saoudite se lève, et demain, peut-être l'Algérie, sur le plan économique, on va faire un vrai boom, et ben, va faire la même chose. Elle ira chercher les grands joueurs, ramener dans son pays, parce qu'elle aura besoin de ça. On n'en est pas à ce stade-là, nous encore. Mais aujourd'hui, on est sur des pays qui veulent la Coupe du Monde, parce qu'ils ont besoin d'être honorés, parce qu'ils font la Coupe du Monde. Le Qatar l'a été, parce qu'il y a une grande réussite, qu'on le veuille ou non. Mmh. Et l'Arabie Saoudite, ils le veulent à tout prix. Et on voit avec les moyens qu'ils mettent là, c'est un truc de fou, vraiment, c'est hallucinant. Et en plus, ils devaient prendre Marseille, tu te rends compte?
Oui.
Donc, j'aimerais bien qu'ils leur aient pris les doigts dans le nez. Hein. et là, tu vois que voilà, bah, aujourd'hui, on sait que c'est le lobbying de l'argent qui marche. Donc, si le lobbying de l'argent est là, bah, voilà, si t'as de l'argent, tu parles. Si t'as pas d'argent, tu restes tranquille, tu te mets de côté et tu me parles pas. C'est comme disait Hermoud quand il parlait des subventions, des clubs, des pays.
C'est combien,
c'est rien.
Combien tu m'aimes.
Rien. Oui. Mais c'est rien. T'as vu les budgets qu'il y a en Algérie? C'est quoi un budget d'un club? C'est 1 million d'euros, 700 000 euros. C'est quoi par rapport au club européen? C'est de la rigolade.
C'est de la rigolade.
Et nous, on est en train d'expliquer, t'as vu l'Algérie corrompue? Oui, mais il n'y a rien.
Quand tu regardes le budget du Milan, le Milan AC, que c'est pas un grand club aujourd'hui, Milan AC, c'est un grand club par le nom, mais par le budget Milan AC, c'est le budget de la Wilaya d'Alger, par exemple.
D'accord.
Tu vois, à titre de comparaison.
C'est combien?
J'ai oublié, franchement. D'accord. On peut regarder.
Milan, c'est quoi? C'est 300 millions, quelque chose comme ça.
Ouais,
300-350 millions d'euros.
Mais ça, c'est officiel, hein. Tu sais pas, les Italiens. Oui. Parce quand tu vas à Milanello, tu peux dire c'est du luxe.
Non, mais c'est pour dire que vraiment le football aujourd'hui, il est rentré de plein pot dans le capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, il pèse par son argent.
Mais le foot, c'est le capital maintenant. Regarde tous les fonds de pension américains qui achètent des équipes. T'es une mutuelle, qu'est-ce que tu viens faire dans un club? Qu'est-ce que tu viens faire à Manchester United? Tu rembourses des médicaments, quoi. Parce qu'ils placent l'oseille, ils savent c'est rentable. La première ligue, tu mets même un milliard, t'en gagnes 10. Ouais. C'est un investissement de riche pour riche.
C'est ça.
Tu vois? La première ligue, c'est pour ça le mec s'en fout. Wolverhampton, regarde. Mahrez en Arabie Saoudite, 45 millions de dollars par an, net d'impôts. Benzema, 200 millions de dollars par an de salaire, net d'impôts. Et Moussa Saïb, il m'avait dit qu'en Arabie Saoudite, il l'avait payé dans des boîtes de chaussures. Il avait trouvé plein de boîtes de chaussures dans sa chambre, il y avait des billets de 100 dollars dedans, des liasses.
C'est ça.
Et après, ils leur avaient dit, mais comment je vais emmener ça? Ils ont dit, t'inquiète, il y a des techniques, il y a des banques suisses, il y a des machins, tu vois, il y a des circuits, on a l'habitude.
Ils ont l'habitude.
Ah oui.
Non, c'est parce que pour te montrer que l'argent va avec l'argent, et le football est partie intégrante du capital, comme je disais. C'est-à-dire que dans l'économie mondiale, le football a sa part. Donc aujourd'hui, tu rentres pas dans ce monde-là, comme tous les pays qui émergent là un petit peu à droite à gauche, et ben tu vas disparaître. Et l'Algérie se doit de rentrer. Le Maroc commence à s'y mettre, mais ils ont pas les moyens financiers. L'Algérie a les moyens financiers. Pour l'instant, ils sortent.
Écoutez, je vais interrompre le coach une minute. Je vous conseille tous une série Netflix chez Lien sur l'argent du foot. C'est une série très bien faite, je connais plus le nom, mais il n'y a pas beaucoup de séries sur le foot sur Netflix. Une série chilienne où on te montre que toute l'affaire de Blatter là, du FBI, de Costa Rica et tout ça a été fait parce qu'ils ont donné la Coupe du Monde au Qatar et pas aux USA.
Ah oui, bien sûr.
Et quand ils ont donné la Coupe du Monde au Qatar, le mec là, Adjoint Blatter, il lui a dit, t'as fait une erreur là. T'as fait une erreur parce que les États-Unis, pour eux, c'est un acquis. Quand ils candidatent, c'est à eux. Et Blatter, il a dit, mais non, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre toi?
T'as vu? En fait, c'est là que Blatter a sauté.
Super série, hein.
Ben oui, puis Hayatou a sauté. Rappelle-toi, tous les patrons des anciennes confédérations ont sauté parce que le FBI s'est mêlé de l'affaire.
T'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le mec de la fédération costaricienne. Ils ont dit, on sait combien t'as détourné. C'est soit 400 ans de prison, soit tu balances-toi avec un micro, tu portes un micro. Le mec, il a dit, ok, il est où le micro?
400 ans de prison.
Ils lui ont dit 400 ans de prison, le FBI, le mec de la CONCACAF, parce que le siège de la CONCACAF est à Miami, il faut le savoir.
Ah, il n'est pas au Mexique. Hein.
Non, c'est la CONMEBOL, il était dans une zone. Tu vois, le siège de la CONMEBOL.
Oui.
Il était, j'ai vu ça dans la série, je ne le savais pas. Il était terrain diplomatique. C'est-à-dire, les policiers sud-américains ne pouvaient pas entrer. Donc, quand ils étaient à l'intérieur de la CONMEBOL, c'était comme un pays. Mais les Américains ont frappé à la CONCACAF, c'était à Miami.
D'accord.
Ils ont attrapé le mec. Et le mec, il a mis un micro, il a été à la réunion du RCK et du CAC et tout ça.
Il leur a dit, voilà, vous n'avez pas le choix, c'est ça ou vous partez très bien. Juste, on arrive à la fin de la première heure. Peut-être que je prendrai un auditeur au tout début à 19h. Ensuite, on va parler quand même de cet ouvrage que notre ami Momo Algérien Foot.
Ah oui, parce que c'est nos parents quand même.
Bien sûr, on va parler de l'histoire de l'immigration. Première génération, et surtout là, quand il a parlé de des parents de Nasser, des choses que je ne savais pas, que même le coach ne m'a jamais dites, et que finalement on va retrouver durant cette deuxième heure. C'est à tout de suite.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
D'accord. Beurre FM, il est 19h, deuxième heure de foot de sport avec toute l'équipe et l'invité exceptionnel, Mohamed Bougara, alias Momo Algérien Foot.
18h, 20h, foot de sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Pardon, temps pour moi. Cette deuxième heure de foot de sport avec l'invité exceptionnel à l'occasion de la sortie de son livre Momo Algérien Foot, on l'a connu aussi, hein, écrivain, mais dans le monde du sport, notamment là, c'est l'équipe d'Algérie, mais aussi Riyad Mahrez, et même dans le livre consacré à Riyad Mahrez, il y a
était dedans Mohamed,
oui, voilà, de Riyad Mahrez.
Il y a Mohamed et Nasser dans le prologue.
Voilà, on fait partie du bouquin de
Vous êtes chez les trois frères.
D'accord.
Et puis, dernière écriture en date, avant de parler, Donc ça s'appelle Bonne chance, c'est la fameuse phrase des immigrés de la première génération.
C'est la phrase fétiche de mon père. Oui. Il la disait tout le temps. Non, mais quand tu allais à l'école, quand tu allais au travail, il te disait bon chance. Ouais,
ouais. En fait, eux n'ont pas été à l'école.
Ils t'ont masculinisé le mot, ils t'ont féminisé, ils t'ont fait avec l'accent en plus.
Ah ouais, mais heureusement, j'ai dû tout traduire dans le livre, tu sais, les expressions là. Ah ouais, genre, tu vois, je te dis pas, vous êtes. Mais je vous dis une chose, ce livre, je vais t'expliquer pourquoi moi j'écrivais sur le foot. Ça m'amusait, j'ai fait le dictionnaire du football africain,
je m'en souviens,
j'ai fait. Mais là, je me suis dit, j'arrive bientôt à 50 balais, je me suis dit une chose. Il y a nos parents, ce livre-là, c'est la génération des gens nés entre 1920 et 1940. Ils sont plus proches de la fin que du début. La plupart, ils sont plus là. Et les autres sont rattrapés par l'âge. On peut rien y faire. Hein. C'est comme ça. Pour qu'il y ait des bébés qui arrivent, il faut qu'il y ait des gens qui partent. Et ce qu'il y a, c'est que ces gens-là ont été discrets toute leur vie. Déjà, c'était des taiseux, les darons, les hommes, les garçons, les pères. Et les mères, toute leur vie, elles ont géré des catastrophes. Elles ont fait en sorte que on se doute de rien. En fait, leur activité favorite à nos parents, c'est de faire en sorte qu'on se doute de rien. Et moi, il a fallu que j'arrive à l'âge que j'ai aujourd'hui pour me dire, quand même, c'était des gens. Je vais vous donner un titre comparatif. Imaginez aujourd'hui là, vous ne parlez pas en anglais. Je vous prends vos téléphones, votre internet, et je vous lâche à Shanghai, sans argent, et je te dis, trouve un appartement, trouve un travail.
C'est ça, exactement. Ouais.
C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est des gens qui, faut savoir, c'est des gens qui sont nés entre 1920 et 1940. Les premiers, ils ont été démobilisés, ils ont fait la bataille de Monte Cassino, le débarquement en Provence. On parle jamais d'eux. On part toujours tirailleurs sénégalais, on part toujours des pieds noirs, mais les tirailleurs sénégalais et beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens. Les Marocains, c'est gourmiers un peu, mais nous, on parle jamais de nous. Nous, on n'existait pas. Ils ont fait la bataille de Monte Cassino, ils ont fait le débarquement de Provence avec l'armée du général Leclerc, l'armée
d'Afrique. Je t'ai montré la photo juste avant. Qu'est-ce qui est marqué sur la tombe du monsieur travailleur kabyle?
Quand ils ont été démobilisés, on leur a dit, c'est bon, retourne dans ta Dachara. Et il y a des gens intelligents quand même, ils sont restés. Il y a un pourcentage infime. Et c'est ces gens-là qui ont trouvé des boulots dans la mine pour reconstruire la France. Mmh. Parce que fallait du charbon, fallait du bois, de l'acier, tout ça. Et ces gens-là, ils ont commencé à envoyer un peu de sous au bled. Et au bled, dans les villages, ils ont dit, tiens, Flaine, il est resté en France, il a un travail, il a envoyé des photos avec le costume et tout. Je vais partir moi aussi. Parce qu'il faut savoir que le but, ils sont pas partis, nos parents, pour aller au cinéma Gaumont, pour aller à la piscine. Ils sont partis parce que le colonialisme, il a fait que toutes les terres fertiles ont été spoliées par deux ou trois familles de colons. Dans ma région, c'était comme ça.
Bah, nous aussi.
Et plus la terre, ils ont laissé que les terres rocailleuses, ça allait où il n'y avait pas d'eau. Donc il y a eu une grosse famine qu'on a appelée Amchad, que nos parents appelaient Amchad, c'est-à-dire l'année de la
misère.
Il y a une grosse famine où dans ma région, moi, il a fallu partir. Comme dans la petite maison dans la prairie, une fois quand il y avait eu la récolte, a été pourrie, ils étaient partis, tous les hommes, ils étaient partis. Il y en a, ils sont partis travailler chez Bledrbeil, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des villes, les villes de l'époque. C'était pas comme maintenant. La Kabylie, c'était pas Tizi Ouzou qui était puissant. C'était Sidi Aïch, tu vois, les villes comme ça où il y avait des gares. Sidi Aïch, Tazmalt, tu vois, les villes comme ça. Et nous, nos hommes, ils allaient travailler là-bas parce qu'en Kabylie, il y avait les olives. Les olives, ça résiste à la chaleur et tout. Et ceux qui avaient un peu de moyens, ok, ils ont été en France les premiers. Parmi eux, mon père. Mon père, moi, il a débarqué ici en 46. Parce qu'il a débarqué en 46. Et c'est des gens que toute leur vie, déjà, ils n'avaient même pas le droit à la nationalité française. Hein. Faut dire, ils n'avaient pas, t'étais indigène. Mmh. Si tu voulais une nationalité française, il fallait prendre un avocat, et il fallait renoncer à ta religion, renoncer à ton nom, ton prénom. Déjà, est-ce que tu connais des gens, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont de quoi payer un avocat pour faire une procédure. T'imagines, mon daron, il va à Absila, oui, bonjour, je voudrais prendre maître machin pour demander la nationalité française. Et sur ta carte d'identité, quand tu l'obtenais, il marquait musulman d'Algérie dessus, ou il marquait juif d'Algérie, ou il marquait européen d'Algérie. Donc, même quand tu avais la carte française, déjà, c'était une carte spéciale. Ces gens-là sont venus ici. Ils ont construit le pays, comme la chanson de Zebda, là, qui a construit cette route, qui a construit cette ville, qui n'y habite pas, tu vois. Pendant les 30 glorieuses, ils ont fait des boulots où ils étaient des ouvriers qualifiés. Celui qui était maçon en bled, il est devenu maçon. Et là, ils ont construit les cités, là, toutes les cités, là, où on habite, elles ont été construites par nos parents, faut le savoir. Celui qui était peintre, il était peintre, mais il n'était pas payé comme un peintre. Un ouvrier simple, t'es ouvrier spécialisé, ouvrier. Tout ce qui est l'amiante, les produits chimiques, normal, vas-y, tiens, sniff, c'est bon. Ça, c'est nos parents qui ont inventé de sniffer le ballon, là, la nouvelle truc à la mode. Eux, ils le faisaient déjà. Et ils envoyaient de l'argent comme ça. Et après, ça a fait un appel d'air. Les premiers, comme mon père et tous, ont commencé à rentrer au pays. Il y a d'autres gens qui sont venus et la France, elle avait besoin de main d'œuvre. Une fois que ça s'est fini, en 74, qu'il y a eu le choc pétrolier et tout, ils ont dit c'est bon, maintenant on arrête. Ils ont donné 10 000 balles aux gens rentrés chez vous.
Oui, je me souviens. Ouais.
Et ceux qui ne sont pas rentrés, ils ont commencé les trucs. La chanson de Slimane Azem, la carte de résidence, on dirait qu'il l'a écrit en 2023.
Oui, exact.
Ils ont commencé à chaque élection à dire l'immigration zéro, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Et ils ont commencé à... Nous, nos parents, c'était des taiseux. C'était des gens qui ne voulaient pas de vagues. Ils ont fait la guerre d'Algérie ici. C'était la misère ici, pire que là-bas. C'est des gens, ils ne voulaient pas faire de vagues. Faut pas sortir la tête parce que tu te prends un coup. Faut pas. Donc, toute leur vie, ils sont arrangés pour que nous, on vive honnêtement. Mais ces parents-là, ils nous ont scolarisés. Ils nous ont surveillés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. À l'époque, on était 9-10 parce qu'il n'y avait pas de pilule à l'époque et tout ça. Tu vois, c'est pas une question que nous, on fait des enfants comme des lapins ou des trucs comme ça, tu vois. Même les familles françaises, moi, mes copains à l'époque françaises étaient des familles de 9-10 comme nous. Donc, c'est Simone Veil en 76 qui a mis la contraception, l'avortement, tout ça. Et ces gens-là, ils n'ont pas fait de vagues. Donc, nous, on a grandi. Ils nous ont surveillé les devoirs, ils nous ont emmenés à l'école, ils nous ont acheté des affaires d'école. Moi, je me rappelle, on allait à Carrefour, on achetait des affaires d'école, comme tout le monde. Ils allaient aux réunions. Bon, ils disaient à la prof, faut le taper. Mais bon, ça, c'est... Quand la prof, elle disait, faut le taper, madame. Mais bon. Et maintenant, eux, ils n'ont pas revendiqué. Et ils ont aidé les pays d'origine en envoyant plein de pognon, en envoyant des vêtements. Et maintenant, les pays d'origine et les pays d'accueil, ils les ont effacés comme une gomme. Tu n'existes pas. Les Algériens, on n'existe pas. Les Marocains, on n'existe pas. Les Tunisiens, on n'existe pas. Les Français, on n'existe pas. Pire, maintenant, ils viennent à la télé toute la journée dans des émissions, débats et tout, dire qu'on est des êtres malfaisants, on est des êtres sataniques qui pensent qu'à faire du harcèlement de rue, à agresser les filles, à vouloir des aides sociales, à voler. Je sais pas, moi, quand je prends le métro à 5h du matin, je vois plus de basanés que de gens qui cherchent des aides sociales. Par contre, pour leur ramener le Deliveroo, les nouveaux bonnes chances d'aujourd'hui, là, ils les aiment bien, ceux qui n'ont pas de papier, qui ramènent le Deliveroo, qui construisent les Jeux Olympiques, ça, ils ne les dérangent pas. Mais ce qui les dérange, c'est que nous, maintenant, on a fait un peu des études, on se débrouille, ils ne veulent pas. Donc, ils ont décidé de nous d'effacer ces gens-là, l'héritage de ces gens-là. Moi, je me suis dit, écoute, là, ils sont trop forts, je ne peux pas lutter contre le groupe Bolloré ou contre BFM ou contre En Marche, La République En Marche et tout, mais je me suis dit, joue sur le temps. Dans 200 ans, il y aura un historien. Il va se mettre à consulter, il va lire le livre de Houellebecq, Michel Onfray, il va dire, mais c'est quoi ces aliens, là, ces maghrébins, mais c'était des monstres, c'est horrible. Après, il va tomber sur mon livre dans les archives, parce que quand tu fais un bouquin, tout bouquin qui se vend en France, il l'archive, à la bibliothèque François Mitterrand, pour les historiens.
D'accord.
Il va dire, tiens, dans ce livre-là, les maghrébins, ils surveillent leurs enfants, ils leur achètent des affaires d'école, ils les nourrissent, ils les emmènent chez le médecin, ils les portent 9 mois comme nous. Tu vois, ils vont dire c'est bizarre. Zinedine Zidane, il est deux et tout ça. Je savais pas. Benzema, Karim, tu vois. Et je me dis, au moins ça équilibrera. Au moins nos parents, ils n'auront pas fait ça pour rien. Il y aura une trace, que tu le veuilles ou non, il y aura une trace. Ça veut dire une personne. Moi, ce que je conseille, ce livre-là, je l'ai fait franchement, je l'ai fait en couleur. Et ça, j'ai voulu faire en couleur par rapport à l'héritage aux gens. Ça, il est quasiment prix coûtant. Je gagne rien, mais je m'en fous. Au bout d'un moment, il fallait se dévouer. Je parle beaucoup, mais juste vous dire un truc. L'Amérique, jusqu'aux années 60, l'Amérique avait une histoire purement blanche.
Oui, exact.
C'était les cow-boys, la conquête de l'Ouest. Les Indiens, ils étaient méchants. Déjà, Anwen, il les a tués. Buffalo Bill, il leur a tué leur bête truc. Et il a fallu. Et les Noirs, ils ont attendu, mais ils s'en foutent. Il a fallu que les Noirs commencent à écrire des livres. Commence à faire des livres comme La couleur pourpre, L'odeur de la papaye verte, des trucs comme ça, que les Noirs commencent à écrire leur histoire pour que maintenant en Amérique il y ait une histoire noire. Moi je me suis dit, nous les Maghrébins, on a le syndrome du colonisé. On ne respecte pas notre congénère qui fait un truc, on attend que le blanc parle de toi, mais le blanc il va parler de toi avec son prisme. Pourquoi j'ai fait un livre sur le football africain? Parce que tous les livres que j'ai lus, moi je suis un boulimique de football africain, tous les livres que j'ai lus c'est Roger Milla, il a marqué, il a dansé à côté du poteau, Didier Drogba, Benarbia, il a joué en Ligue 1, il a jamais joué en Afrique, Benarbia. Et les mecs comme ça, et je me suis dit, je vais faire un livre africain qui parle du vrai football africain par rapport aux sélectionneurs que j'avais interrogés, aux gens que j'ai côtoyés, au café du métro de Cuba où il y avait tous les anciens internationaux. Et ben là, c'est pareil. Si tu attends que Benjamin Storaille fasse un livre où il dise que ton père, il est bien, tu vas attendre longtemps, mon gars. Il va dire, non, on vous a fait des vaccins, on vous a tout fait, vous êtes des enfants gâtés, on vous subventionne, machin. Mais moi, mon livre, il est objectif, c'est pas un livre revanchard. Celui qui m'a aidé, je le dis. Celui qui m'a aidé, je le dis, les mairies de gauche là, qui nous ont fait faire de l'équitation alors qu'on était des gens qui arrivaient du Jubel, qui nous ont fait faire de l'équitation, de l'escrime. Moi j'ai fait de l'escrime, tu peux même pas acheter l'uniforme. Il faut le dire, les choses bien. Tu vois? Le fait qu'on te paye une tablette tactile qui a la carte imaginaire, faut le dire. Moi je fais pas dans l'anti-France, mais je suis objectif. Quand je dis, tant pis, il y a des trucs qui me portent préjudice dans le livre. Il y a des anecdotes sur moi ou ma famille qui sont pas flatteuses, mais je les assume parce que j'en suis fier. J'ai pas honte d'avoir été pauvre, je suis fier. Parce que d'où je. Tu vois, du moment que tu travailles honnêtement, que tu travailles, tu as pas vendu de drogue, tu as pas tué personne, tu as agressé personne. Et eux, non. Eux, notre communauté, ils attendent que Yann Arthus Bertrand. Imagine le reportage Yann Arthus Bertrand, ça aurait été Qa'adol Ben Mortar qu'il aurait fait. Il aurait dit, mais c'est nul ce reportage, il filme du ciel, là, n'importe quoi. Vas-y, dégage. Parce que ils attendent que ce soit Patrick Chambier qui fasse le livre. Mais Patrick Chambier va faire un livre pour lui. Il va faire un livre sur les Chambier, il va faire un livre sur toi, sur la Bonioli. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Et moi, je me suis dit, comme moi, je pouvais pas faire un livre sur l'immigration type Yamina Benguigitou, parce que moi, je suis pas sociologue. Les gens vont m'attaquer. T'as vu comment ils sont violents sur les réseaux sociaux? Mais t'es qui, toi? Pour parler de l'immigration, de faire des statistiques, t'es sociologue, t'es ethnologue. Mais je me suis dit, mon père, je le connais. Je le connais bien. Mon père, ma mère, je la connais. Mes sœurs, je les connais. Et moi, j'ai habité dans une cité de ma vie. Quand je parle avec Nasser Sanjak, on a les mêmes histoires. Tu changes que le nom. Tu enlèves Msila, tu mets Béjaïa ou Borj. Tu enlèves Tizi ou tu mets Tizi Ouzou, c'est pareil. Tu enlèves Saint-Denis, tu mets Lyon. Tu mets Marseille, tu mets Nantes, tu mets Lille, tu mets les Ardennes. C'est pareil. Donc moi, je me suis dit, ce livre-là, c'est le livre générique. Plus tard, Mohan, toi, Inch'Allah, t'auras des petits-enfants. Il va dire grand-père, tout ça. Tu lui donnes le livre, tu lui dis... Tu prends ce livre-là, tu me changes le nom de famille du héros, le prénom de notre famille du héros, le nom de la ville d'arrivée, le nom de la ville de départ. Et tu as exactement le même canevas. Amchar, il a eu lieu pour tout le monde. La colonisation, elle a eu lieu pour tout le monde. La guerre d'Algérie, elle a été dure pour tout le monde. Les 30 glorieuses, elles ont été bien pour tout le monde. Il y a eu des avantages pour tout le monde, des inconvénients pour tout le monde. Il y en a qui ont réussi parmi nous, il y en a qui n'ont pas réussi, comme la majorité des gens. Pourquoi faire croire à la télé qu'on est tous des losers ou des terroristes en puissance ou des gens qui ne sont pas comme tout le monde? Non. Nous, on aime bien aimer, on aime bien aller au ciné, on aime bien sortir avec des filles, on aime bien regarder un film, on aime bien regarder un match. On aime bien le PSG. C'est pas pourquoi, sous prétexte que je m'appelle moi Ahmed, j'ai pas le droit d'être supporter de l'OM ou du PSG ou machin, sans qu'on me dise, ouais, retourne dans ton pays, machin. Moi, je revendique juste une chose, la binationalité apaisée. Je veux le même statut que les Polonais et les Italiens qui sont venus avant moi et que les Portugais et les Espagnols qui sont venus après moi. Eux, ils ont le droit. Eux, il y a l'euro. Nadine Morano, elle s'habille en tifosi. Elle prend une photo sur Twitter, c'est bien. La même Nadine Morano, il y a la CAN, elle te fait une embrouille. Pourquoi? Moi, l'euro, j'étais content. La Coupe du Monde 98, j'étais content. Pourquoi nous, on est la cinquième colonne, on est l'espion, l'ennemi de l'intérieur, le sarrasin, tu vois, on est dans les croisades, t'as l'impression, CNews, c'est des temps pliés, tu vois. Et ben moi, je suis qu'un minable. Mon livre, il se vend sur Amazon parce qu'un éditeur, il va te prendre un livre que ça parle du vivre ensemble, de Français qui t'ont bien accueilli, qui t'ont aidé, d'Algériens qui sont bien comportés, de gens qui ont respiré des gaz toxiques, on va pas te parler de ça. Mais moi, à ma petite échelle, si le livre, avec le bouche à oreille, il arrive à être diffusé, parce que moi, je t'ai dit encore une fois, ce livre-là, tu peux regarder les prix, va voir un spécialiste, tu lui demandes la qualité du livre, le nombre de pages, la couleur et tout ça. Combien il coûte pas 19,50 le livre, mais je m'en fous. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se sacrifier. Moi, alhamdoulilah, pour moi, la richesse, moi, j'ai toujours été pauvre toute ma vie.
Mais
pour
la richesse, c'est d'avoir écrit.
Je veux pas mourir en anonyme. Ouais. Je veux mourir en disant, il a fait un truc pour sa communauté, il a fait un truc pour son pays, parce qu'ici, c'est aussi mon pays. Là-bas, en Algérie, c'est aussi mon pays. Et il y a eu des gens bien. Il faut les honorer, il y a eu des gens cons, il faut les critiquer.
Très bien, merci Momo pour
juste vraiment... une dernière chose, le livre il est sur Amazon, vous tapez bon.
T'inquiète
chance,
pas, on donnera toutes les infos après, mais on va marquer une pause parce que le coach va quand même réagir.
Ah oui,
Sofiane, c'est la troisième ou quatrième génération, on va aussi réagir à son niveau. Restez à l'écoute et puis également du côté du standard, je vous promets, on va répondre à toutes vos questions.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Les dossiers de Foot de sport.
Les dossiers de Foot du Sport consacrés aujourd'hui à une écriture sur l'histoire de l'immigration. On n'est pas dans le sport, mais dedans, les anciens ont fini également par enfanter, par nous léguer quelque chose de magique, à savoir des enfants qui sont devenus footballeurs célèbres, qui sont devenus plus que footballeurs certains, c'était handballeurs, d'autres basketteurs, course à pied, etc. Bref, l'immigration c'est aussi ça, et je pense que Momo le connaissant, un jour, quand il fera l'histoire du sport on va dire, issu de l'immigration au service de la France, et il y a de quoi écrire, et même beaucoup. Alors, je vais prendre... Oui, la serve, vas-y.
Je voulais quand même...
Bien sûr.
On va réagir quand même.
Oui. Ouais, ouais, bien sûr que vous allez réagir.
Oui.
Vous attendez
là,
ça.
Parce que le temps court, là.
Moi, la première chose, quand je vois Momo, j'ai envie de lui dire... Je te tire un grand coup de chapeau, mais réellement, c'est pas de le dire qui est... C'est vraiment... tu l'as dit, tu l'as fait. Et maintenant, je te connais bien depuis le temps, et... J'ai vu en toi, là, ce que je vois là encore en plus, c'est monstrueux. D'être un garçon d'où tu viens, ce que tu as fait, les idées, comment tu les proposes. T'as toujours été issu de la... Ton discours a toujours été issu de la vérité. Moi, je l'ai ressenti comme ça depuis longtemps. Et voir comment tu t'ouvres sur plein de sujets et tu touches des choses qui sont extrêmement importantes. Pour nous, pour la génération comme nous, parce que t'es la même que la mienne, c'est extrêmement important d'avoir des lectures sur nos parents, parce qu'on ne sait pas, parce que nos parents ne nous ont pas parlé, ils ne nous ont pas su, mais bon, on a essayé de construire quelque chose qui n'existait pas, mais l'écrire et d'arriver sur des plateaux comme ça pour l'expliquer, je dis oui, mais ils ont tellement souffert, nos parents, bah, ils l'ont caché, c'est clair, que aujourd'hui, quand je te vois toi écrire ça, je me dis, moi, c'est pas que le documentaire ou l'histoire qui va, ou l'historien qui va regarder ça. C'est aussi nos générations qui vont arriver derrière. C'est eux qui ont besoin de savoir d'où ils viennent. Et nous, on sait que l'Europe occidentale, il le sait, lui, d'où il vient, sur 13, 14, 15, 17e siècle. Nous, on sait même pas d'où on vient depuis là. Comme disait mon père, moi, il m'a dit, en France, ils vous veulent pas, au bled, ils vous veulent pas, il vous reste la mer. T'as vu ? La Méditerranée,
c'est exactement ça. Ouais, tu vois, c'était des philosophes.
Terrible. Ah, mais magnifique. Et tu vois, ça aussi, les mots d'esprit, ce qui a été construit en nous, entre comment on a été perçu là-bas et comment on était perçu à l'intérieur, on a toujours été entre les deux. Toujours. Toute notre vie, on a été comme ça. Et moi, j'ai envie de te dire, je te tiens vraiment mon chapeau, moi, parce que, déjà, t'as un talent monstrueux.
C'est gentil, mais venant de toi, coach, le compliment, il me touche énormément parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as accompli, parce que toi aussi, tu es dans le plein dans le sujet de
ce que tu as. Oui, mais là, je parle de toi, parce que toi, tu es un écrivain. Tu sais, comme on dit en religion, il reste quoi ? Il reste tes enfants et les livres que tu laisses sur cette terre. Il reste ces deux choses-là, les enfants et
c'est ça la richesse.
Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai envie de dire, j'espère que c'est qu'un début, parce que tu as tellement d'idées, t'es une machine à laver dans les idées, t'es un essorage, toi. T'as une machine, t'as une turbine à la haut, et faut pas que tu t'arrêtes là, il faut que tu continues, et t'en fasses encore et encore et encore, parce qu'on a besoin des gens comme toi. Mais il faut que tu saches qu'aujourd'hui, en 2023, comme tu le disais si bien, on a besoin de garçons comme toi.
Et pour
qui écrit, pas qui parle,
coach,
pas qui parle, parce que parler, ils parlent tous. Mais écrire, poser, ou des peintres, ou des créateurs, t'es aujourd'hui à ce niveau-là.
Et il y a eu un début de ce livre, en plus de l'histoire, c'est toute la tradition de notre. D'où on vient, c'est oral. Ouais. Donc quand les anciens meurent, on a retenu 70%, nous on va mourir, nos enfants de maintenant ils jouent à la console et tout.
C'est fini.
Et donc là, j'ai tout retranscrit, tout ce que mes parents m'avaient appris, je l'ai retranscrit, maintenant au moins il y a une trace écrite. Ça veut dire que j'ai fait entrer ça dans un écrit, comme ça les gens plus tard, ils sauront les traditions, nos mariages, nos divorces, les tribus, comment ça fonctionnait, les trucs, tu vois.
Et donc, comme d'habitude, moi, t'es toujours un grand spécialiste de la communication. Mais je dirais simplement, continue, ne lâche pas, parce que tu as encore un grand parcours derrière.
On ne lâchera pas parce que nous, on n'a pas besoin de devenir riche. Nous, on veut juste laisser une trace positive de ce qu'on est. Et le message, si ton fils, ton petit-fils, ton dernier, ton petit-fils, ou ton fils à toi, Sofiane, un jour il dit je suis fier de ce que je suis, il faut être fier, parce que à force d'entendre à la télé que t'es une merde, tu finis par y croire, et tu finis par camoufler, par appeler tes enfants Brick, Jean-Paul et tout ça, et à vouloir camoufler, tu dis ouais je viens d'Algérie ou du Maroc, je m'excuse. Non, il faut que tu saches que c'est des. Moi, je suis incapable de faire le dixième de ce que mon père a accompli. Je t'ai dit va en Chine maintenant, trouve un boulot, un appart avec zéro dans ta poche, sans parler la langue, sans rien. Arrive à la gare du Nord.
C'est comme pour les femmes, je leur dis, faites comme ce qu'elles ont fait nos mères, ni lire, ni écrire. Elles ont élevé 13, 14 mômes. qu'on un âge l'un derrière l'autre, hein, c'est pas 13-14 avec distanciation d'âge, ils sont tous collés l'un derrière l'autre, bah va gérer ça toi.
Va gérer ça et en même temps,
sans
je te jure. Je te jure à un moment, on était 13 à la maison chez moi, c'était un restaurant, c'était un rush. On aurait dit là, c'est le truc de la gare de Lyon le matin, brioche dorée là, le petit déj, voilà. C'est pas évident.
Sofiane, toi qui es de la nouvelle génération.
Ouais, c'est pour Sofiane, ça.
Non, mais c'est franchement c'est super intéressant, tu vois. Ce qu'il y a, c'est ce que je retiens dans ce que tu as dit, et c'est un truc que j'avais déjà dit à Nasser, c'est que chez les Algériens, chez les Maghrébins de manière générale, il y a cette volonté de reconnaissance. Tu vois, ce truc que moi je perçois dans le discours, cette volonté d'être reconnu, et effectivement ce côté où on va cacher notre véritable personnalité. Et en fait, si tu veux, le maghrébin, de manière générale, dans l'immigration...
Ouais, c'est le maghrébin, c'est pareil. Ouais,
si tu veux, il ne prend pas de risque et il veut être reconnu. Et je trouve que c'est ce qui se passe actuellement. Moi, en tout cas, je le vois comme ça, tu vois. Bon, personnellement, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, avec la mondialisation aussi, maintenant, il y a de la visibilité, tu vois. Donc, il faut qu'on essaie de se montrer dans les bonnes choses. Et je trouve que ces codes-là, on est en train de les casser. Alors après, la grosse limite aussi, c'est que malheureusement, on est aussi le produit d'un système qui fait que ça a produit malheureusement ce qui s'est passé pendant les émeutes là il y a pas longtemps, parce que tu parles d'immigration, les gamins d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là tout au mois de juin après l'affaire Naël, tu vois. Et je parle de ça parce que finalement, si tu veux, ce que tu dis quand tu parles de ce que le système, ce que l'école a produit, ce que finalement la société produit, bah, c'est des gamins qui sont avides, t'as vu, de consommation. Et qui donc en fait, quand il se passe quelque chose, justement, cette colère sociale, elle s'exprime comment? Bah, on va aller taper le Carrefour à côté ou le McDo, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est super important, tu vois, d'essayer de conscientiser tout ça et que justement les jeunes générations, tu vois, bah s'approprient ces combats, tu vois.
Je te dis, je revendique juste le statut qu'ont les franco-polonais, les franco-italiens qui sont venus avant et les gens qui sont venus après nous, et les franco-portugais. Regarde, finale de l'Euro. Imagine une finale Algérie-France où on bat la France 1-0 et qu'on sort comme ils ont fait eux dans la rue. On va à Ponto Combo là avec des drapeaux algériens devant le centre, comment ça s'appelle, Marcoussi là.
Oui.
Mais ils nous envoient le GIGN direct. Pourquoi? Parce que y a pas. On a dit la génération de la guerre d'Algérie vont mourir. Nous, on n'aura pas connu comme les Allemands. Non, nous, aucune jurisprudence s'applique sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Et les pauvres Marocains et Tunisiens, ils payent pour nous. Ils sont assimilés, tu vois. Quand on dit les Algériens, tu vois. Et il y a un truc aussi que je voudrais dire, c'est que on a le syndrome en plus du colonisé. Il y a eu 132 ans de colonisation où on te dit, tu t'identifies à, tu veux devenir Thierry Roland ou tu veux devenir Hafid Darraji, tu veux devenir un mec, un Libanais ou tu veux devenir un Français. Pourquoi tu ne deviens pas seulement ce que tu es, un Algérien ou un Franco-Algérien? On est bien comme on est. Pourquoi vouloir être tout le temps un autre? Pourquoi quand tu deviens journaliste sportif, tu te mets à pas vouloir être catalogué, mais soyons catalogués. Pourquoi le Portugais ou l'Italien, l'autre là, Nicolas Villas, c'est un très bon journaliste. Il joue de son origine portugaise, ça dérange personne. Tu vois, c'est ça que je revendique.
Là, on est dans les tabous de la société française.
Mais on les cautionne quelque part.
Bien sûr.
Et je dis, déjà, moi, j'ai commencé, comme il a dit le coach, paré au plus pressé, la règle du management, tu regardes pas le problème. Toi, ce que tu me dis, c'est bien, mais c'est l'étape 2. L'étape 1, c'est déjà honorer des gens qui ont donné toute leur vie, qui ont passé toute leur vie hors de chez eux, pour nous. Moi, je me rendais pas compte. Maintenant, je réalise. Avant, c'était normal. Je rentre chez moi, faut qu'il y ait à manger. Quand il y a le marchand de glace, papa donne. Quand il y a le truc. Mais maintenant, je me rends compte. Quant à au bled tous les ans, combien ça a coûté d'économies pour emmener tout le monde au bled tous les ans? Pour des raisons idéologiques, c'était pour qu'on soit intégré, pour qu'on voit d'où on vient. Ils auraient pu faire comme les gens de maintenant, là. Nous laisser ici, aller que eux, et parce que après tout, non, ils ont fait des choix de vie pour nous. C'est des gens qui aimaient beaucoup leurs enfants et qui ne le montraient pas en plus. Donc nous, on s'est aperçu de rien, moi, c'était normal. Maintenant, après, j'ai eu un enfant, j'ai été marié quelque temps. Ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement, mais c'est un autre débat.
C'est la vie, moi.
Je me suis rendu compte ce que c'est de payer des billets d'avion. Je me suis rendu compte ce que c'est de faire les courses. Je me suis rendu compte le loyer. Le mec, il gérait tout seul 13 personnes parce qu'il y avait la grand-mère qui venait, l'autre qui venait, le cousin, machin. Tu connais. Le mec, il vient se soigner. Il vient 3 jours avant le rendez-vous. Il part 3 jours après le rendez-vous. Tu mets ça. Tu vois? Et ils se sont jamais plaints. Comme la chanson de Ken Zafara, là, sans jamais se plaindre. Et ben c'est exactement ça. Je vous la conseille, écoutez-la, elle est exactement dans mon livre. Maintenant, faux. Et les pays d'origine, c'est pareil. La guerre d'Algérie, la Fédération de France, elle est pour, allez, 35-40%, je suis gentil, dans l'issue de la guerre. Le FLN lui-même, il l'a reconnu, Bembel lui-même, il l'a reconnu, tout le monde l'a reconnu. Mais là, on a disparu. L'équipe du FLN, c'était qui? C'était des mecs qui jouaient ici. Les pays d'origine aussi ne calculent pas. Si les franco-marocains, les belgo-marocains, les néerlandais-marocains, ils arrêtent d'envoyer de l'argent au Maroc, le Maroc, il se portera bien. Regarde, j'ai appris récemment, Cuba, l'île de Cuba, vit grâce aux gens de Miami, aux Cubains de Miami qui sont pourtant contre Cuba. Mais comme ils envoient de l'argent à leur famille, ben, quelque part, ils renforcent le régime qu'ils combattent. Et les Chinois, pareil, les Indiens, pareil. Et nous, nos pays d'origine, ils nous respectent pas. Et le pays d'accueil, ils nous respectent pas. Nous, on existe. On a construit des choses. On a fait des guerres. On a fait une guerre mondiale, voire deux. Ils ont même été en Indochine. L'Indochine, c'était des Maghrébins contre des Vietnamiens. Comme il a dit Mohamed Ali, des Vietnamiens qui nous ont jamais traités de sales arabes. Et lui, il avait dit ça autre chose, mais je le dis pas à l'antenne parce que j'ai moyen d'y avoir un procès tout ce que j'avais dit. Là, je vais pas aggraver les choses.
Non, il y aura pas de procès.
Et c'est ça le truc, c'est regardez d'où vous venez d'abord. Regardez. Vos grands-parents, c'est pas seulement des gens qui disent M. aussi les mains et machin, tout ça. C'est pas seulement c'est qui écorche les mots et tout ça. C'est des gens dignes, qui ont une dignité, qu'il y a beaucoup, nous, on devrait s'en inspirer. Et c'est des gens qui ont beaucoup compté, qui ont beaucoup fait pour leur pays. Et je te dis un truc, Samuel Eto'o, il a dit un vrai truc une fois. Il a dit si les Africains vivaient à l'européenne, le continent, la moitié serait mort de faim. Parce que nous, quand il y a une assiette pour 10, il y en a pour 12. Tu vois, et c'est cette et maintenant quand j'entends un dernier truc, Mohan, ça me tient à cœur ça. Les guéguerres Algérie Maroc toute la journée sur les réseaux sociaux. Mais nous quand on est arrivé, c'est qui se nous entraidait? Tu trouves un Marocain, ton voisin, il arrive avant toi, il va te montrer. Viens, je vais te montrer le secours catholique, secours populaire. Viens, je te montre le marché. Un Tunisien, il vend ça, il va dire tiens, je te fais crédit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries que vous nous sortez maintenant? Les Africains subsahariens, c'est nos frères. On travaille avec eux. Ils étaient au chantier. Regarde le réacto de mon livre. Mon père, il est avec qui?
Oui.
Tu vois?
Je le vois, ouais.
C'est pourquoi maintenant nous sortir des conneries là pour avoir des vues sur les réseaux sociaux là. Arrêtons, oui, les gars, oui, arrêtons.
Ça, c'est pour faire le buzz, tout simplement.
Voilà, moi, j'arrête de prendre en otage ton émission.
Moi. Non, mais c'est un coup de cœur. Non, mais Momo, c'est un coup de cœur. Et puis, de toute façon, ce que tu dis, on est dans la vérité, dans ce que nos parents ont vécu. Nous, moi, c'était plus de la génération 70, mais quand même, je suis arrivé à cette.
Mohan, c'était plus. Mohan, je l'imagine bien, genre Jamel Al-Alam avec le Padef, le crève l'œil, arrivant à Paris pour conquérir le monde avec une petite européenne, là, tranquille, hein, ouais. Martine, hein, un petit Dave Mohan. Hein.
Quand tu parles comme ça, tu fais penser, je ne sais plus quel écrivain français, là, qui parle de ses écrits, de son enfance. En Algérie, sur Algérie, Camus, voilà. Ouais. Camus. Tu fais penser à ça, c'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, toi, d'où tu es, tu viens, tu prends un exemple qui est ton père, qui est la plus belle chose. Tu expliques ce que tu as vu de ton père, ce qu'il t'a montré. Le problème, c'est qu'on était dans un lieu qui s'appelle la région parisienne, où tout s'est passé à l'intérieur. D'ailleurs, tu as parlé de la fédération c'est important, du FLN, où la reconnaissance n'est pas là. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment, la reconnaissance, personne ne veut nous la donner?
Personne, mais c'est ce que je dis.
Personne, non, personne.
Il y a eu un truc qui s'appelait les accords d'Evian. Du jour au lendemain, on est retourné dans les usines.
C'est ça.
Et on est retourné en vacances, et voilà. Même, il y a beaucoup d'immigrés qui n'ont pas la carte de Moudjahedine et tout ça, alors qu'ils n'ont pas participé. Même en étant là-bas, parce qu'ils sont partis en travail en Europe, quand ils ont fait les dossiers de ça, ils n'étaient pas là.
C'est ça.
Tu vois ?
C'est pas ça, c'est que même quand tu la demandes.
Fatima, si tu veux parler, parle dans le micro.
À l'heure actuelle, quand tu veux faire ta demande, toi, quand tu es un ancien Moudjahidine, je suis désolé, un ancien Moudjahed, quand tu vois les démarches administratives en Algérie, je peux t'assurer que c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière.
Combien de témoins ? 3, 4, 5 ?
Mais c'est même pas ça. On te demande des papiers, limite, tu peux pas les obtenir. Le nombre de témoins qu'on te demande, mais c'est la croix et la bannière. Nous, on l'a fait pour mon père. On l'a demandé il y a une vingtaine d'années. Allez, il a fallu plus de 10 ans pour qu'il puisse avoir, lui, sa carte de Moudjahed, d'ancien combattant. Plus de 10 ans, c'est aberrant.
Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que. Il faut que les gens, les livres comme le mien, il faut que tout le monde en fasse. Vous avez tous des photos, vous avez tous des papiers. Moi, j'ai trouvé des papiers. Ouais. Et j'ai essayé d'être. Le plus dur, ça a été de. Tu vois, le livre, il est construit comme si tu étais mon père. Ça veut dire que tu as ses yeux. C'est 93 ans de vie. Donc, tu vois, et donc il fallait être historiquement juste. fallait pas dire des conneries. Donc j'ai mis plus d'un an à l'écrire parce qu'il fallait que je me documente sur chaque ligne que j'écris, chaque chanson, chaque marque de vêtements, pour voir si elle existait ou pas à ce moment-là. Parce que toujours tu vas voir le mec sur internet qui va dire, vous avez parlé de Givenchy, mais Givenchy est arrivé un an après là, du truc.
Tu sais, ça, il y en a plein, ouais. Mais vraiment, ça, c'est mon style. Pour,
il y en a plein qui se font ça.
Pour valider un petit peu de tous ces propos. Il y a quelques temps, lorsque on a commencé à, si notre maman est partie, on a commencé à, on a commencé à ranger les affaires. Ma sœur a retrouvé, moi j'ai complètement oublié, ça s'est passé il y a plus de 45 ans, mon fameux carnet de vaccination pour traverser de l'Algérie vers la France.
Il faut que tu le gardes, moi.
Ouais, et le carnet, je l'ai gardé. Moi, et le carnet, il est jaune.
Il y a un truc qui m'a surpris.
Le carnet, je dis, c'est pas
que
possible.
Statistiquement, un livre sur cinq a été acheté par un non-maghrébin. Il y a beaucoup d'Européens qui l'ont acheté, des gens d'origine italienne, espagnole. J'ai reçu un mail très touchant d'une espagnole qui m'a dit, le papier que vous avez mis dans votre livre, j'ai le même dans mon arrière-grand-père, je l'ai le même dans mes archives. Quand il est mort, on a fouillé sa maison, j'ai gardé le papier.
Moi, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il suffit de changer le nom, le prénom,
voilà.
Donc du héros du livre, la ville d'arrivée et la ville
de départ,
la ville de départ, et on se reconnaît tous.
Je ne sais pas si tu connais la chanson de Idir, là, Adrar et Adrainou, il dit une vraie phrase dedans, il dit... Nous avons cru gagner en quittant la terre où nous avions faim, mais nous avons été trahis par le temps. Parce que c'est des gens qui se sont aperçus qu'ils ont passé 40 ans hors de chez eux. Et rien qu'à voir leurs yeux quand on rentre en vacances, tu voyais qu'ils étaient contents. Que c'était vraiment, tu sens l'attachement. Comme nous, on est content d'être à Saint-Denis. Tu vois, tu peux aller même à Los Angeles quand tu reviens à Saint-Denis. Tu dis, quand même, Saint-Denis.
Bon, alors, on va prendre les appels dans un instant. Je marque une dernière pause dans cette émission. Restez à l'écoute. Trois fous de sport. On parle aujourd'hui quand même d'un livre consacré à l'immigration première génération, écrit par Mohamed Bouguira.
Tu peux donner le titre, Mohamed, si
fous de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Quelle émission passionnante. Et puis, franchement, aussi, le public qui reste fidèle. Alors, même si on n'a pas suffisamment de temps pour que tout le monde puisse réagir, je vous promets une autre émission pour vous donner la parole. Mais là, déjà, ça fait longtemps, ça fait des années, je me suis dit. Il va donner de ses nouvelles. Eh bien, il les donne. C'est notre ami Ahmed. Bonsoir, Ahmed.
Bonsoir, Mohamed.
Bien, on t'écoute, Ahmed.
Bah, écoute, Mohamed, moi, je suis habitué. Je connais l'émission, ça fait des années. Ouais. J'ai débuté, tu te souviens?
Très bien, oui.
Voilà. Donc, j'embrasse le coach, j'embrasse tes invités, mais il y a un mec... comme on dit en anglais, oui. Blow my mind. Il m'a troublé l'esprit, le mec. Tout ce qu'il fait là actuellement, Mohamed, Mohamed Bouguira.
Oui, c'est lui, oui.
Voilà. Bah, je suis un peu plus âgé que lui. J'ai commencé avant lui à faire ça. C'est le témoin qu'on m'a transmis.
Ouais.
Pour faire ça en fonction de l'histoire.
C'est gentil.
Tu vois. Et quand je vois un jeune homme comme ça. Moi je te dis franchement, c'est la première fois sur Beurre FM, quelle que soit l'émission, où je vais pas tarder à raccrocher parce que le mec, il m'a bouché le bec. Et je suis content d'une chose. J'ai reçu le témoin, je l'ai témoigné. En ce qui le concerne, lui, c'est quelqu'un qui lui a transmis un autre témoin. Tu sais, quand tu fais la course, là, 400 mètres, là,
oui.
Quand bon, tu remis le truc, là, tu le donnes aux gens pour gagner une course. C'est ce qui s'est fait, là. Et là, je suis heureux. Je voulais dire, Mohamed, moi, je travaille, tu sais, j'ai quitté le Nord-Pas-de-Calais où mon père est venu, où la vie n'était pas facile pour beaucoup de gens. Ouais. Pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
Tu sais qu'il y a une bonne partie du livre qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. On a tous commencé par là. Hein. On est tous arrivés là.
Mohamed, je vais pas vouloir te prendre trop de temps.
Vas-y.
Juste, je m'exprime et après vous réagissez. Moi, je suis ému. Mon cœur, il me touche là. Et je voulais dire, les vieux étaient taiseux. Mais à un certain moment de leur vie, quand tu savais parler avec eux, ils te racontaient tout. Mais moi, Mohamed, tu sais, le coach, il en a parlé. toi, tu en as parlé. J'ai bien écouté ce qui s'est dit. Toi, tu as parlé de double nationalité. Qu'est-ce que je suis, moi? Un seul dialecte. Ma mère et mon père sont en Algérie. Moi, je suis franco-algérien. Il y a des métiers que je ne peux pas faire en Algérie. Il y a une loi.
Oui.
Il faut être algérien, pas franco-algérien. Voilà, Mohamed. Et l'histoire est importante parce qu'on la transmet par témoin aux enfants, aux petits-enfants, et c'est toujours ce qu'il faut faire, tu vois. Mais je vais te dire un truc, je pense que le pays de mon père et de ma mère, les représentants politiques, ne me respectent pas. Voilà. Et je les aime énormément. Je parle pas du peuple, là. Je parle des responsables politiques qui n'ont jamais eu une volonté politique de mettre un point sur la table, ne serait-ce qu'en Europe. Ah, on avait l'amical des Algériens en Europe, ils n'ont rien fait du tout.
Si, ils faisaient des matchs à foot, c'était bien.
Voilà, j'ai connu, Mohamed, j'ai connu l'UNJA, l'Union Nationale des Jeunes Joueurs Algériens dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils achetaient les gens avec des survêtements.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais moi pourquoi il n'y a pas un député en Algérie comme la France le fait, hein, qui puisse représenter les intérêts des Algériens, franco-algériens? Et on n'a rien du tout. On aime le pays, on aime tout. De toute façon, les plus grands touristes là-bas, c'est les Algériens d'Europe. Et spécifiquement de France. Voilà.
Très bien. Merci Ahmed.
Une grande partie du pognon des Algériens du monde entier, dans toute l'immigration, notamment de France, ça se compte en milliards. En milliards.
Oui, c'est vrai.
Je vous aime tous, Mohamed.
Oui, merci.
Merci, c'est gentil.
À très bientôt. Tu sais, tonton, ouais. Des fois, pas présent au micro, mais toujours à l'écoute.
Oui.
Et puis, écoute, mon ami, continue toujours à nous décrypter le football. Même si je hais le football masculin, je suis orienté maintenant, avec la dernière Coupe du Monde, vers le football féminin. Le reste ne m'intéresse plus. Le pognon ne m'intéresse plus.
Merci, Khoy Ahmed. Merci beaucoup.
Je te dis à tantôt.
À bientôt. Je voulais apporter une autre précision, coach. Alors, je vais le dire à Mohamed, puisque lui, il a la plume. C'est aussi... Alors, je compte, entre les premiers matchs que j'ai commencé à commenter avec toi, coach, et puis le temps qu'on a passé déjà ensemble, ça fait au plus bas mot une quinzaine d'années. On a tellement fait d'émissions, j'ai gardé peut-être une dizaine d'années de podcasts. Je me dis, pourquoi pas un jour, on sollicite Momo pour écrire un petit peu ce qu'on a fait à travers cette émission sur Beurre FM. Qui, il faut le dire aussi, fait partie de l'histoire, hein, le Beurre FM.
Franchement, déjà, Mohamed, rien que les commentaires des matchs à chaque heure de la campagne 2009, là, c'était un livre à lui tout seul, tu rappelles, coach? La campagne 2009, là, de 2008.
Je pense que c'était la plus belle.
C'était franchement, ceux qui ont connu cette époque, tu peux arrêter. C'est pour ça que je peux plus être journaliste en 2023 quand t'as connu cette époque-là. Les mecs des TT qui sortaient les à fil, là.
Oui.
T'étais harnué, il n'y avait plus d'internet. Il y avait des agressions, il y avait des bandes avec des sabres à Blida au début. Ils n'arrivaient pas à gérer la sécurité à Blida. Une fois, j'étais resté à côté, j'attendais le chauffeur de compétition, je suis resté à côté de la BRI. Il y avait des mecs avec des sabres, ils me disaient comme ça, on va t'égorger. Après, ils ont géré, après, ils ont compris. Ouais. Tu sais, c'était le match, je sais pas si tu te rappelles, coach. Pendant le ramadan, à Algérie, Zambie.
Ah oui, je me souviens.
Avec Hervé Roy, Anar, même avec sa chemise. Ouais, le mec, il avait la haine. Il faisait. Ouais, on peut dire que vous êtes au mondial. Je lui dis, non, c'est pas statiquement fait. Mais si, vous êtes au mondial. T'as vu Hervé Roy, Anar, avec ses jambes bien rasées, là, il se rasait les jambes pour faire boire.
Allez,
tu sais que j'ai plein d'anecdotes sur Hervé Renard. Quand il entraînait lui à Asma, il y avait une vieille pianiste au centre de Lys, là, à l'hôtel. Elle jouait du piano dans la salle. Elle kiffait sur lui. Elle le lâchait pas. Elle commence à m'énerver, là, vieille. Là. Parce qu'il était marié, Hervé Renard. Il avait une grande fille et tout. Elle commence à m'énerver, là, vieille, il me dit.
Très bien. Alors, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps jusqu'à la fin. Il y en a un qui tenait vraiment à te saluer.
C'est Mahrez,
ouais. Mahrez Hamada, les hommes.
Ah, Mahrez Mouloudia, c'est ça?
Ah non, pas les hommes, alors je retire. Ah, ça y est, vous nous avez volé Belaïli, vous êtes content là. Hein?
Et vous avez mis deux fausses étoiles.
Oui. Rabat El Ahli, Rabat El Ahli, on en reparle après. Parce que vous, Kassi Saïd, il louait. Kassi Saïd, il payait des nuits à noces avec le budget recrutement dans les hôtels.
Ah bon?
T'as pas vu la facture qui était sortie? J'avais vu ça sur internet. Une facture d'un hôtel pour une nuit à noces. Et c'était signé par la direction du Mouloudia. Non, Mouloudia, je les respecte. C'est quand même le club des Shohada 1921, le doyen. Quand même.
Déjà, je passe un grand bonjour à Kossonga.
Bonjour, mon ami.
À Sofiane.
Salut. Ouais, bonsoir, Mahrez, bien sûr.
Fatima, c'est ça?
Ah, voilà. Ouais.
C'est ça. Et Nawal, de l'autre côté de la mer.
Là-bas, du côté de...
Oran.
De Oran, ouais. Oran, ouais.
Et notre grand ami et fidèle, Mohamed Bansaria.
Ah, on est là, frère. On lâche pas, c'est comme toi.
Et sans oublier Nazim Bassol.
Là, on est en train de citer les anciens combattants du football algérien. On a tous fini en asile psychiatrique. À Joinville, France Fanon, ils vont nous réserver une chambre.
Oui.
C'est chez moi en plus.
Bon, moi, ce que je voulais dire, Mohamed.
Oui, frère.
Je n'ai pas encore lu, mais ça m'a touché. Vous avez peut-être une petite frontière.
Eh oui, c'est. Bah oui, hein. Les parents, c'est important. D'accord, la yarhamou wa sa'alihum. Il faut savoir une chose, ils s'en vantent pas, mais le père de Mehrez, Allah yarhamou, c'est un grand journaliste de l'APS. Il le dit pas, il le dit jamais, mais il faut le savoir. Je me rappelle quand il est décédé, on a fait le deuil tous les jours, les journaux, je me rappelle. Hein. Tout le monde a été à son enterrement, je me rappelle. C'est un grand monsieur.
Voilà, tu vois, donc c'est pour ça qu'il a gardé cette flamme dans le football Mahrez.
Ouais, parce que ton père, c'était un fils de chéri. Je dois même pas le dire, mais voilà, comme il a tenu le mot, je vais le dire. Mon grand-père, Lachmo, c'était un ancien fondateur du Bisma d'Alger, dans le basket.
Ah, ben ça va, tu remontes dans mon estime.
J'ai mes proches dans ma famille, côté de ma mère, Mouloudia. Mon père, c'est vrai que c'est
un mon fils, il est Mouloudia, ce traître. Zinou, depuis qu'il est petit, rien à faire. J'ai essayé de le formater, j'ai essayé Mouloudia, vert et rouge.
Ah oui.
Ah oui. Eh ben, tu vois, c'est ça le charme.
C'est ma punition. C'est
mon grand, Berbi Mouloudia, l'usma qui fait la force. Moi, franchement, ton livre m'a beaucoup touché.
Ah oui.
Ce que tu viens de dire. Et ce que tu parles sur l'immigration, que les gens le veuillent ou non, ce sont nos enfants.
Ben oui, tu sais qu'il n'était pas facile à écrire le livre. Hein. Il y a des chapitres, j'ai eu du mal, hein, je peux vous le dire maintenant.
Bien sûr, parce que, tu vois, j'ai pas envie de dire des choses pour pas enjumer les choses avec le pays d'accueil. Ça, ça mérite un jour, on en discutera encore plus de ce que tout a dit tête à tête un jour, surtout avec Mohamed et Coach un jour. Si on peut se voir un jour, ça me fait plaisir.
Inch'Allah. Oui, oui, on trouvera le temps nécessaire. Ouais. Hein. Ouais, bien sûr.
C'est ça. Et pour finir, j'ai envie de toucher ce que tu as dit sur le football algérien et la réélection que je dois la toucher de M. Walid Sadi et les soi-disant, comme tu as dit, Mujahideen et tout ça qui se font passer, j'ai fait pour l'Algérie, tout ça. On le voit dans les youtubeurs, dans les journalistes sportifs, les plateaux. Et Walid Sadi, moi j'ai mon cousin, il croit en lui. Hier, il m'a tellement soumis, je l'ai laissé parler. Pourquoi? Moi, j'y crois pas, Walid Sadi. Il y a une loi qui est faite. Il y a des règlements. Un candidat diplômé. Walid Sadi n'a pas de diplôme. Pour moi, Walid Sadi.
On m'a parlé d'un diplôme tunisien.
Oui. Oui, mais il a écrasé la loi. Il a écrasé la loi. Il est passé. Un seul candidat.
Où est l'Algérie? Mohamed, il avait une expression à l'époque, c'était Hajj Moussa Al-Hajj.
Bien sûr. Ouais. Et là, sur certains plateaux, si vous me permettez, je vais taper certains anciens. Certains, pas français, sont toujours là, les microbes du football algérien. Et là, certains anciens footballeurs qui passent leur temps à dire le football aux anciens footballeurs. Mais parmi les candidats, nous sommes diplômés, il a tous les diplômes requis. Candidat, il n'y a aucun ancien footballeur ne l'a soutenu. Eh bien, il faut que Bassi nous discute ces gens-là.
Ah ben, lui,
tout le monde maintenant, oui. Wally Sadi est devenu Don Diego de la Vega. Qui va nous sauver.
Moi, il y a une chose je voudrais dire. Ça me tient à cœur aussi. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on est censé être un pays musulman. Moi, personnellement, je suis musulman. Je suis pas parfait. Je vais plus souvent à l'opéra qu'à mon mosquée, mais on est censé être un pays musulman. On est censé appliquer la sunna. J'entends toujours les gens qui parlent des coulisses. Il faut les coulisses de Wally Sadi. Que voulez-vous dire par coulisses? Est-ce que c'est corruption coulisses? Est-ce que c'est de l'argent? Parce que moi, les coulisses que je connais, j'ai pratiqué le football africain. C'est soit des défis dans les chambres, soit des valises de billets. Soit des trucs, soit les à deux, soit des manteaux de fourrure comme le Dynamo Kiev, il offrait des manteaux de fourrure aux arbitres pendant la Ligue des Champions. Est-ce que ça, c'est pas haram? Moi, je préfère perdre que me qualifier avec ces coulisses-là. Moi, je veux gagner. J'ai pas envie que ma sœur, elle aille, j'ai pas envie que ma sœur aille voir un arbitre ou que mon argent des impôts, parce qu'au bled, il y a TVA comme partout, il y a l'impôt à la source. Et là, il y a un arbitre, j'ai pas envie. Donc, faut préciser les coulisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par coulisses? Est-ce que, alors à ce moment-là, on fait plus le ramadan, devant on Dieu, fait plus rien. Les coulisses, c'est quoi? Si c'est les coulisses comme à la télé, là, les coulisses, tu vas, il y a un miroir avec des ampoules, tu te déguises et tout ça, c'est bien. Mais moi, je n'accepte pas ces coulisses. Je préfère être éliminé de tout que faire ces méthodes-là.
Très bien, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Elle est passée très très vite, elle a été passionnante. Alors, je rappelle, ce livre s'appelle « Bon chance ». C'est les mémoires d'un immigré écrit par Mohamed Bougoula. C'est l'histoire de son père, mais aussi c'est l'histoire de la plupart des pères ou des grands-pères de cette première génération qui est arrivée en France pour travailler. C'est édité chez Amazon. Il est très riche, il est très passionnant. Vous allez voir, il y a des...
De toute façon, la une, c'est une carte orange. Donc ça veut tout dire,
la carte de transport. Alors c'est la fameuse carte RATP avec la signature du papa de Mohamed, nom, prénom, etc. et tout. Et puis le fameux, et puis toutes ces photos en couleur qui sont magnifiques. 204. Très bien. Et puis je vous le conseille, hein. Allez-y, commandez-les sur Amazon. Il est vendu tout simplement au prix prix coûtant. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver quant à moi.
Je voudrais juste dire que j'étais très heureux d'être chez Mohan parce que Mohan, c'est une institution, c'est le Mylène Farmer du football. Et il a un public fidèle. Non, mais en matière de fidélité du public. Parce que Mylène Farmer, elle dit rien, mais quand elle fait un concert, c'est plein. Ouais, et bien, Mohan, c'est pareil.
Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain sur Uber FM.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.